Bonjour, bienvenue dans ce groupe de partage autour de la non-dualité, autour des enseignements non-duels. Nous sommes le dimanche 13 janvier 2013, 13-1-13. Bienvenue à tous ceux qui sont là autour de la table, près du feu qui crépite et autour de toutes les petites gourmandises qui sont déposées là devant nous, autour des titres des leçons d'un cours en miracle que nous sommes guidés à piocher pour nous donner des indices ou poser des questions. Voilà, je vais faire sonner un gong pour nous inviter à un moment de présence partagée pour commencer. Merci, et j'accueille en même temps les nombreux frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment et qui font qu'en ce moment même notre groupe est bien plus grand. Et quand je dis en ce moment, ce n'est pas un enregistrement direct, simultané, mais c'est dans la notion du non-temps dans lequel l'écoute se fait ensemble, forcément. Voilà, je vais introduire en quelques phrases ce groupe, donner quelques directions, et puis nous donnerons aussi nous-mêmes nos propres directions en fonction de nos inspirations, de ce qui vient. Mais à tout moment, c'est possible de poser une question sur un livre, sur un passage, de lire un passage, de demander un éclaircissement ou à éclairer un passage qui demande ou une question qui n'a pas de réponse dans ce monde mais qui peut en avoir une dans celui de la non-dualité. Voilà, le sujet majeur et dans chaque groupe c'est nous sommes un malgré toutes les apparences qui tendent à dire le contraire. Ça se décline en plein de petits sujets. L'ego, l'esprit pur, l'amour, la peur, la dualité, la non-dualité. On m'a doublé sur le périphérique, on m'a fait une queue de poisson. Tout ça, ce sont des sujets pertinents pour parler de cette question fondamentale qui, en définitive, revient à poser la question « Qui suis-je ? Qui suis-je vraiment ?» au-delà de ce que je crois être. Même si j'en ai des intuitions, des aperçus dans ma vie, c'est un groupe aussi pour partager ça. Et si je n'en ai aucune idée et que ma vie semble très sombre, c'est aussi un groupe pour partager ça et pour éclairer cette apparente noirceur. Et je dis bien apparente. Voilà, et puis comme je ne suis pas animateur dans ce groupe, je ne suis pas le boss, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de chef. Je vais dédier dès à présent la direction de l'après-midi à l'esprit, moyennant 5 phrases issues d'un cours en miracle à la page 30 qui m'aident à lâcher le contrôle sur ce que je vais dire ou je vais faire et à laisser l'esprit que je suis dans ma partie élevée consciente diriger les choses, hein, ou me guider à parler ou à me taire. Et ces 5 phrases, elles disent simplement ceci, « Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. » Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Voilà, quand je dis ces cinq phrases, je peux entrer immédiatement dans une détente à propos du programme. Le programme, il se construit d'instant en instant et en fonction de ce qui se dit, de ce qui se fait dans ce groupe, peuvent me venir ou nous venir des inspirations à dire certaines choses ou à proposer certaines choses. Et c'est pour ça que ces groupes sont très faciles à organiser pour moi, puisque j'ai rien d'autre à faire qu'à préparer l'enregistrement, préparer la table et le feu qui crépite. J'ai pas à me soucier du contenu. Le contenu se déverse dans une coupe que j'ai à cœur de vider avant le groupe. Vider sa coupe, comme disait Osho, c'est faire de la place pour qu'un enseignement arrive. Si la coupe est pleine parce que je sais déjà plein de choses, alors l'enseignement ne peut pas se déverser dedans. J'aime bien cette métaphore. Et donc, vider sa coupe, c'est signe d'humilité, c'est signe de je ne sais pas, je crois savoir certaines choses, mais en vérité, je ne sais pas comment les choses sont en réalité. Alors, j'ai écrit dans l'invitation quelques directions qui sont assez diverses et qui peuvent ou non résonner en nous pour poser des questions, pour les approfondir. Comment mieux percevoir notre nature véritable? Comment pacifier notre vie avec le vrai pardon? Quel est le sens du mot Dieu dans la non-dualité? Comment puis-je choisir d'être heureux plutôt que d'avoir raison dans certaines circonstances? Comment je peux identifier l'ego comme étant la croyance d'être séparé du reste? Quel est le pouvoir divin de nos intentions? Comment le monde que je vois est un reflet de mes pensées? Comment les deux niveaux de ma perception sont la réalité d'une part et l'illusion d'autre part? Comment être dans ce monde de dualité sans en être, sans être du monde? À quoi sert ce scénario de nos vies terrestres? Comment la vraie guérison peut provenir de l'esprit? Quelle est la nature du voile de séparation? Qu'est-ce que le plan divin pour l'humanité? Comment je peux apprivoiser l'ego pour le remettre à mon service? Et comment le monde subtil, l'esprit pur, le Saint-Esprit, est à nos côtés en permanence pour nous fournir de l'aide. Voilà pour quelques directions. J'ai été inspiré en cette nouvelle année à appeler ce groupe les humains du rêve heureux, puisqu'il est dit dans Un cours en miracle, autour duquel nous partageons fréquemment, que notre vie est un rêve, que nous rêvons de ce monde, comme nous rêvons la nuit, et qu'au matin, nous nous apercevons que rien de ce rêve n'était réel. Alors, ce rêve de nocturne est comme un rêve dans un rêve. Et ce rêve diurne est aussi un rêve duquel nous ne nous sommes pas encore réveillés. Pourquoi pas, hein? Pourquoi est-ce que ce monde serait plus réel que celui qu'on rencontre dans nos rêves nocturnes? Voilà, et puis j'ai mis un sous-titre qui est « Nouvelle ère », avec un papillon hein, pour le symboliser. Le papillon est souvent associé à l'âme, et souvent associé aussi à la liberté. Et les humains de rêve heureux sont ceux qui, s'étant réveillé du rêve, reste dans le rêve tout en sachant qu'il rêve, c'est-à-dire sont conscients du rêve. Voilà la septième personne que nous attendions de nos voeux. Peut-être même nos intentions ont créé sa venue. Voilà, alors si une nouvelle ère s'ouvre à nous, quelle est-elle ? Quelle est-elle, cette nouvelle ère ? On parle aussi de nouvelles dimensions, on parle aussi de monde vécu dans l'espace du cœur. Ça peut être tout ça. Ça peut être une nouvelle perception. Ça peut être une accélération du temps sans pareil. Moi, j'y inclus également une activité grandissante de notre Soleil, qui est au paroxysme de son activité. C'est sa 13e année, et les cycles sont de 13 ans dans le Soleil. Et je suis attentivement cette météo du Soleil. Et il semble que aujourd'hui même, il y a des tâches solaires très actives qui sont classées avec des lettres en fonction de l'émission des tempêtes magnétiques qui arrivent sur Terre quelques jours plus tard et qui sont de nature à changer nos émotions, à changer notre perception, à nous faire entrer dans des cycles nous-mêmes internes. Et puis, ces groupes peuvent s'appuyer en partie ou totalement sur une phrase composée seulement de deux mots qui contient toute la vérité. Et ces deux mots sont simplement « Dieu est ». « Dieu est » est censé contenir toute vérité. Et ces mots ont été prononcés par Jésus il y a 2000 ans, conjointement avec mon Père et moi sommes un. Dieu est, avec comme signification sous-jacente, Dieu est tout ce qui est. Dieu est la totalité de l'existence. Bon, voilà, il y a des surprises, j'adore les surprises. Alors, si nous acceptons comme base Dieu est, si nous acceptons comme acquis Dieu représente la totalité de l'existence, il n'y a rien à part Dieu. C'est aussi une phrase issue de la Kabbale. Plus exactement, elle dit « Il n'y a rien à part lui ». C'est accroché là, à côté de la porte des toilettes, dans le petit rond, le petit cadre avec une phrase circulaire. Et le fait qu'elle soit circulaire, c'est une fois qu'on a atteint la fin, on a tout de suite le début. Et on peut enchaîner comme un mantra. « Il n'y a d'autre que lui ». Et si Dieu est tout ce qui est, tout ce qui nous semble séparé, y compris le temps, l'espace, la terre, les autres corps humains, sont illusions, sont croyances qu'il peut y avoir autre chose, qu'il y a autre chose que Dieu, qu'il y a autre chose que le tout. Alors on peut appeler Dieu comme on veut, mais c'est pas le sens dogmatique donné par certaines religions à Dieu comme étant une entité qui juge nos faits, comme étant une entité qui peut être offensée par ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Nous pouvons librement changer de mot tant que le concept résume que Dieu est tout, l'univers, mon esprit supérieur, la nature pour certains, la totalité de ce qui est, le grand tout, le tout. Voilà, tout ça n'a pas d'importance parce que c'est le sens sous-jacent de Dieu qui est important. Mais il s'avère que dans Un cours en miracle, on utilise Dieu, et puis c'est parce qu'il y a un vocabulaire issu du christianisme, mais non inspiré des dogmes de l'Église chrétienne actuelle. Donc tout va bien, hein, tant que nous savons de quoi nous parlons. Et si Dieu est la totalité de l'existence, ce qui en découle immédiatement, c'est que Dieu ne peut jamais s'opposer à rien, parce que, étant la totalité de ce qui est, il s'opposerait à lui-même, ce qui n'a vraiment pas de sens. Dieu, ne s'opposant à rien, accepte tout, dit, ne connaît qu'un seul mot, c'est d'accord, pour mes expériences en tant que celui qui se croit séparé de lui. Et ne juge absolument pas et n'a pas représente le bien sans opposer, représente l'amour sans opposer, qu'on peut appeler aussi inconditionnel. Donc voilà une bonne base de départ, hein. C'est le socle absolu de la non-dualité. Dieu est. Et je suis forcément dedans. Malgré les couches de croyances et de conditionnements tenaces qui me poussent à croire par moments qu'il y a en face de moi un opposant, un adversaire, un ennemi, ou même un simple corps séparé de moi. Voilà. Que se passe-t-il ? Pourquoi avons-nous cette croyance que le cours qualifie d'illusoire de séparation ? Pourquoi avons-nous cette pensée de séparation qui vise à nous croire séparés des autres et du monde aussi. Pourquoi avons-nous fabriqué cette dualité dans notre esprit ? Pourquoi avons-nous divisé notre esprit en une partie fausse, qu'on peut appeler aussi égo, hein, qui est vraiment la croyance qu'il peut m'arriver quelque chose sans ma volonté, et l'esprit pur, celui qui est connecté à la source, celui qui est la source, qui n'a pas eu cette pensée de séparation, qui n'a pas souhaité à un moment donné s'extraire de l'océan d'amour pour répondre à la question, qui est aussi une question un peu folle, que se passerait-il si nous n'étions pas divins ? Et comme nous sommes divins, la question est absurde. Mais cependant, parce que nous l'avons posée, et parce que, en tant qu'esprit, nous avons un pouvoir divin, nous avons présidé à sa manifestation. Parce que nous y avons cru, à la question. Hein ? C'est impossible, c'est inimaginable, puisque Dieu est tout ce qui est, de se représenter quelque chose ou quelqu'un en dehors de Dieu. Et pourtant, nous l'avons rêvé, nous l'avons imaginé. Parce que ce qui n'est pas possible dans la réalité, dans tout ce qui est possible dans le rêve, puisque nous pouvons penser ce que nous voulons, y compris avoir des idées fausses au sujet de la réalité. Donc, en pensée, nous nous sommes extraits de l'amour pour imaginer un rêve dans lequel l'amour ne serait pas la seule chose, et l'amour serait avec un opposé qui est chez nous la peur ou la souffrance ou l'angoisse ou toutes les diverses déclinaisons de la peur que vraisemblablement vous connaissez aussi bien que moi. Sinon, ça se saurait. Voilà, nous avons tiré sur l'élastique, hein, c'est une façon de parler que j'utilise, pour apparemment sortir de la grande sphère du tout, en dehors de laquelle il n'y a rien, mais apparemment nous trouver en rêve à l'extérieur pour avoir une perspective sur l'amour. Comment serait l'amour si je pouvais le voir de l'extérieur, alors que je suis tout le temps dedans, quoi que je fasse, mais je peux imaginer autre chose. Et c'est pour ça que ce monde peut s'appeler illusion. Ce monde peut s'appeler le rêve humain ou le rêve heureux, hein, si je prends conscience d'ores et déjà que je suis en train de rêver maintenant, et que dans ma réalité absolue et non relative, je suis Dieu, je suis un être divin, pur esprit, sans forme, qui est dans un contexte sans espace, sans temps, sans matière, qui est partout à la fois et dans tous les temps que je connais à la fois, ou dans lequel il n'y a aucune séparation, mais qui a désiré à un moment donné expérimenter la fragmentation de l'un en une multitude, juste pour faire une expérience de dualité dans un monde qui ne connaît pas les opposés, dans le monde de l'unité. Voilà, c'est assez fabuleux, c'est assez aussi mystérieux de parler de ça en partant d'une perception qui est 100% basée sur ce monde, basée sur la forme, basée sur la dualité. Et pourtant, arrive un moment dans ma vie où cette dualité que je vis est largement insuffisante pour le désir ardent de bonheur qui est en moi et qui est partagé par l'ensemble des humains. Il n'y a pas un seul humain qui ne désire pas être heureux. Même le plus abject des criminels veut être aimé, veut aimer aussi et veut être heureux. Et lorsqu'il agit de cette manière, c'est une manière très maladroite de dire « Regardez ce que je suis capable de faire pour que vous fassiez attention à moi. » Et faire attention à moi, c'est m'aimer, hein, c'est mettre votre regard aimant dans ma direction. Si j'étais rempli d'amour et plein de paix, quel besoin aurais-je de tuer autant de personnes ? Aucun. Je serais tout simplement dans la béatitude, la félicité, le bonheur, l'amour inconditionnel. Donc forcément, si j'agis de cette manière, c'est que je suis à l'opposé de l'amour. Je me crois séparé de ma propre source d'amour. Sinon, jamais il me viendrait à l'idée de faire des choses pareilles. Donc plus le comportement semble refléter la souffrance et plus le besoin de se reconnecter à la source d'amour est grand, hein, et plus nous pouvons voir que dans cette circonstance, avec un autre regard que celui qui condamne, la seule réponse possible à une telle demande d'amour, c'est un amour aussi grand que l'est la demande, un amour sans condition et sans opposé, et de considérer cette personne ou toute autre personne qui souffre comme un frère d'humanité avec lequel nous partageons l'existence de la totalité de ce qui est de Dieu. Voilà, cette fraternité-là, elle est sans opposé. Nous sommes tous la création de Dieu en tant qu'extension de Dieu, et dans les humains, les frères humains, il n'y a pas, malgré ce que semble dire notre ego, notre désir de séparer les gens en bons et en mauvais et en méchants, les t-shirts blancs et les t-shirts noirs, il n'y a pas de personne qui soit plus ou moins valable qu'une autre, puisqu'ils sont tous des reflets de l'amour divin sur terre, dans ce monde de dualité. Donc bien sûr, c'est difficile sans avoir une vision non duelle de réellement pardonner ces personnes qui agissent de cette manière. Mais en définitive, leur but n'est-il pas de nous éveiller à notre capacité de pardonner véritablement et d'aimer véritablement? De même que les avions qui s'écrasent avec des enfants innocents, de même que les génocides et que les tremblements de terre qui emportent des milliers, des centaines de milliers de victimes. N'est-il pas d'éveiller une vague de compassion pour me donner le goût et l'envie de revenir à l'amour sans opposé, qui est engrammé en moi et que j'oublie, que je voile par un voile de séparation de manière à faire l'expérience humaine, parce que sans voile de séparation, l'expérience humaine ne peut pas être vécue si je me rappelle de la grandeur de l'être divin que je suis, de la grandeur et du pouvoir, alors que je vis dans un corps très limité, et dans un monde fait de limites et d'opposés. Donc j'ai besoin d'oublier temporairement ma nature divine pour vivre cette dualité dans ce monde. Et c'est peut-être le défi ultime de naître dans un monde où tout le monde tue tout le monde, y compris les animaux, pour se nourrir. Chacun est proie, chacun est prédateur. Et par nos propres moyens, relever le défi de nous extraire de ce monde d'opposés pour aller dans une perception non duelle, sans opposé, où seul l'amour existe sans contraire. Peut-être est-ce ça la nouvelle ère qui s'ouvre à nous maintenant, avec de plus en plus d'espace du cœur qui est sollicité, de plus en plus de fraternité, de solidarité, d'amour. Pour nous, apparemment, c'est quelque chose de progressif, hein, d'aller d'une dimension principalement orientée sur la forme et sur la peur et sur les biens matériels, à une dimension beaucoup plus légère, orientée sur des choses sans forme, non matérielles, mais qui nous constituent. Hein. Il est dit que l'amour inconditionnel est la plus haute fréquence de l'univers, ce qui peut exister de plus élevé, sachant que tout vibre, la peur est une vibration qui vibre avec des vibrations assez basses, et puis il y a une échelle, hein, et nous avons l'amour humain qui pose quand même certaines conditions. S'il te plaît, ne me quitte pas et je t'aimerai toujours, hein, mais il y a quand même un si. Hein. Mais qui est quand même plus élevé dans l'échelle des vibrations que la peur, la terreur, l'angoisse et tout ce qu'on connaît dans ce monde de trois dimensions, qui est appelé à s'élever dans une nouvelle ère avec des comportements beaucoup plus d'entraide, de fraternité, de solidarité, qui nous parle d'unité plutôt que de séparation, de communauté de vie, d'habitation, dans lesquelles les ressources seront partagées, les savoirs seront partagés. Et ce qui nous unira avant tout, et ce qui nous unit dès maintenant, c'est une communauté d'intention et d'esprit, quelque chose qui est immatériel. Lorsque nous partageons des intentions, nous démultiplions le pouvoir déjà très grand d'une intention. Donc c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui dans ce groupe et avec toi, cher frère, qui écoute en ce moment avec nous. Ce qui se passe, c'est aussi ce qui se passe. Nous partageons un même esprit, un même but, hein, celui de nous réveiller à notre véritable nature. Voilà le thème de ce groupe. Toute intervention que tu souhaites faire est la bienvenue. Et quelque sujet que ce soit est un bon levier pour aborder cela sous le regard de la non-dualité. Et tous les silences éventuels sont également des moyens non matériels, sans forme, de communiquer entre nous. J'ai parlé.
parmi les sujets que tu as proposés tout à l'heure à vie, il y en a un qui revient sans cesse et qui est celui du pardon. Et c'est un sujet qui est pas facile et en même temps très simple. Avant ce groupe, nous étions en train de parler entre nous et nous parlions d'extraterrestres et d'informations que nous avons par certains canaux extérieurs à cette planète, avec de l'information qui arrive par rapport à des êtres extraterrestres qui auraient des intentions pas très claires, pas très, disons, pas dans l'amour inconditionnel, et qui voudraient envahir cette planète ou du moins se servir des êtres humains pour conforter leur peur et pour faire certaines expériences dont apparemment ils auraient besoin pour avoir plus de pouvoir, plus de sécurité, et finalement pour contrer leur peur. Et nous en discutions. J'ai tiré la leçon tout à l'heure, avant ce groupe, la leçon 161, qui est la suivante, qui est une leçon qui peut paraître à premier abord difficile, et qui est « Donne-moi ta bénédiction, saint enfant de Dieu. »« Donne-moi ta bénédiction, saint enfant de Dieu. » Et là, on touche tout de suite au vrai pardon. Donc quand j'entends parler, par exemple, de frères humains qui tentent de violer des petites filles, qui au pouvoir tentent d'asservir l'humanité par des contrôles financiers gigantesques, des manœuvres souterraines, que ce soit au Vatican ou dans des puissances cachées, occultes, sur cette planète, quand j'entends parler d'extraterrestres qui auraient des velléités de contrôle et d'asservissement, quand j'entends parler de guerre cosmique, de lutte cosmique à travers l'univers, et effectivement, comme on peut dire que sur cette planète, il y a des guerres, par exemple au Moyen-Orient, avec des luttes, des bombes qui sont lâchées, des armes automatiques qui tirent, eh bien, à l'échelon de l'univers, il y a aussi ces choses-là, dans le rêve. Dans le rêve. C'est pour ça qu'il devient tellement important de comprendre que l'essence de tout, c'est nous qui créons ça. Nous sommes esprit et tout est esprit. Et l'esprit est un. Et l'esprit est un, ça veut dire que tout va bien. Et qu'il n'y a qu'un seul être, il n'y a que ce qui est. Et ce qui est éternel, non menacé. La courte introduction du courant miracle se termine par ce cours peut très simplement se résumer de la manière suivante. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela se trouve la paix de Dieu. Et voilà qu'on me parle d'extraterrestres qui ont des velléités négatives, on me parle de dangers sur cette planète, de violeurs, etc. Et là arrive le pardon. Qu'il est temps maintenant, pour nous qui voulons être heureux, c'est la leçon qu'a, je crois, attiré à vie, qui est la leçon 101, la volonté de Dieu pour moi est le bonheur parfait. En anglais, c'est God's will for me is perfect happiness. Donc, cette volonté de bonheur parfait, elle est forcément accomplie puisqu'il n'y a que Dieu. Donc, l'esprit, la seule pensée, l'esprit que nous sommes, que tout être est, y compris des extraterrestres, y compris des intraterrestres, y compris tous les êtres humains sans aucune exception, cet esprit-là, il est bonheur, joie, plénitude. Le mal n'existe pas. Et c'est là qu'arrive le vrai pardon. Le vrai pardon, c'est je veux la vraie vision, cette vision que tout est un et que rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. Et donc, cette leçon que j'ai tirée 161, que je répète ici, qui est « Donne-moi ta bénédiction, saint enfant de Dieu », c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que dès que j'ai la pensée par rapport à un être humain, d'un violeur, d'un quelqu'un qui cherche à contrôler les autres, dans la peur. Si on me parle d'extraterrestre, eh bien c'est pareil, je vais dire à n'importe quel extraterrestre, donne-moi ta bénédiction, saint enfant de Dieu. Cette leçon est très forte, la leçon 161, mais c'est vraiment la leçon clé du pardon. C'est une des leçons clés du pardon. Et à chaque fois que je vais penser à quelqu'un, que ce soit une personne, deux personnes, un groupe, des extraterrestres, des intraterrestres, c'est donne-moi ta bénédiction, saint enfant de Dieu. Tu es le Christ, c'est-à-dire tu es la manifestation de la source, tu es l'expression de la source. Et la source est tellement infinie, et la source est esprit, et comme l'esprit n'a pas de limite, la pensée de séparation n'est pas contrée, elle n'est pas, il n'y a rien qui s'oppose à cette pensée. Et c'est cette pensée de séparation qui engendre cet univers gigantesque que nous pouvons contempler, et encore on n'en voit qu'une partie. Dans cet univers gigantesque, il y a des êtres qui circulent, qui se meuvent, nous sur Terre, et puis évidemment énormément d'autres êtres sur une quasi-infinité de planètes et de systèmes solaires et de galaxies. Et donc cette notion « Donne-moi ta bénédiction, saint enfant de Dieu », elle est fondamentale. Dieu est Dieu. Tout à l'heure, Ravi disait qu'il était difficile, avec une pensée duelle, une pensée de croyance à la séparation, il est difficile de pardonner. En fait, c'est impossible. C'est impossible parce que la croyance à la séparation suppose que la séparation existe. Donc à ce moment-là, effectivement, ça engendre l'attaque, automatiquement l'attaque et la défense, et Dieu n'est pas Dieu. Dieu, c'est tout et un. Donc si la séparation existe, Dieu n'est pas Dieu. Et donc je ne suis pas. Et donc personne n'est. Alors que ce soit des archanges, des anges, des satans, des extraterrestres, des malveillants, des bienveillants, etc., tout ça, c'est des jugements. Tout ça, c'est des résultats d'une certaine perception erronée. Le mal n'existe pas. Notre fameuse Bible, là, cette Bible auquel beaucoup font référence, a au début une excellente métaphore qui est l'histoire d'Adam et Ève. Elle est excellente, cette métaphore, bien qu'elle se termine, elle devient fausse à la fin. Quelle est cette métaphore? C'est Adam et Ève, c'est l'image du paradis, c'est l'état initial, c'est l'origine, c'est qui nous sommes. Et ça, c'est le bien sans opposé. Il y a plénitude. Le mal, la souffrance n'existe pas. Et puis se glisse cette pensée impensable, la pensée de séparation, symbolisée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la fameuse pomme. Donc je mange de cet arbre et je goûte, j'admets en moi cette croyance au bien et au mal. Je vis immédiatement le bien et le mal. Et donc à ce moment-là, je ne suis plus dans cet état paradisiaque. Et c'est là qu'évidemment, quand on dit que c'est Dieu qui chasse Adam et Ève du paradis, c'est faux. C'est eux-mêmes qui imaginent ne pas être dans le paradis par leur croyance au bien et au mal. Et donc quand j'ai peur d'un extraterrestre ou même d'un terrestre ou de quelqu'un, eh bien c'est pareil, je m'extrais du paradis qui est ma nature, qui est qui je suis. Je suis, j'existe, et donc je suis réel. Rien de réel ne peut être menacé, donc je ne peux pas être menacé. Et rien d'irréel n'existe. Ce qui semble menacé est imaginé. Alors on va dire, oui, mais ça entraîne de la souffrance, de la douleur, des manques, des conflits. Oui, tout ça c'est imaginé. Alors évidemment, on comprend bien que cette notion de pardon, c'est en même temps très simple et en même temps pas facile, parce que ça suppose de tout lâcher, de lâcher cette croyance à la séparation. Alors évidemment, on va dire, oui, mais tu n'y arrives pas. Toi, tu es en train de nous parler, Sylvain, d'accord, tu as l'air d'y arriver, etc. Moi, j'y arrive pas non plus. Personne n'y arrive, parce qu'on n'arrive nulle part. Pourquoi? Parce que nous sommes ici, 7 milliards incarnés sur une planète très duelle. Donc, on est sans cesse tenté par cette croyance à la séparation. Le fait de s'imaginer un corps, de vivre la sensation physique d'être un corps homme ou femme. C'est ça la séparation. Donc on a choisi cette expérience. Donc cette tentation de se croire séparé, elle est constante. on peut dire que nous sommes tous en réajustement de cette croyance tout le temps. La plupart de nos frères et sœurs ici n'en ont pas conscience. Ici, autour de cette table, et vous qui écoutez cet enregistrement, vous en avez plus conscience. Vous êtes ce que nos guides appellent nos guides, ou qui vous voulez, ou votre maître intérieur, ou ce que vous voulez, peuvent appeler des travailleurs de lumière. C'est-à-dire, on est un peu plus conscient. Donc, on commence à comprendre qu'on rêve. Mais on rêve quoi? On rêve qu'on est séparés. On rêve qu'on n'est pas amour, qu'on n'est pas plénitude, qu'on est menacé. Oui, mais il y a des extraterrestres, ça m'est égal. Tout ça, c'est inventé. Il n'y a pas de limite à qui je suis. Dieu n'a aucune limite, il n'y a que Dieu et rien d'autre. Donc, ces notions de danger extraterrestre, intraterrestre, ces notions de danger sur cette planète, de tsunami, de tremblement de terre, de catastrophe, de système monétaire qui s'effondre, de police, d'armée, de mainmise des religions sur la conscience humaine, je pardonne immédiatement. C'est là que ça, c'est ça le pardon. Donc tout va bien. Seulement, évidemment, on n'est pas dupe. Et justement, on regarde en face. Et pour la plupart de nos frères et sœurs, vous pouvez observer que quand on parle comme je suis en train de parler, on peut dire, oui, mais ça, c'est trop facile. C'est une fuite. Pas du tout. Au contraire. C'est le contraire d'une fuite. C'est regarder en face, honnêtement, et choisir. Et ne pas se voiler la face. Parce qu'ici, l'illusion est très bien faite. Et dans l'univers, l'illusion est très bien faite. Et quand arrivent des informations par rapport à des possibilités de guerre sur cette planète ou à l'échelon interplanétaire, je dis oui, c'est possible, parce que c'est le résultat de croyances. Mais c'est à moi de choisir. Pourquoi ? Parce que je suis divin. Donc aucun extraterrestre, personne, aucun être, pas même un ange, un archange n'a de pouvoir sur moi. Bien sûr, je vais dire ça de tous les êtres. Je n'ai aucun pouvoir sur personne en tant que personne séparée. Même si apparemment je peux être quelqu'un de, je dis je, mais ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, quelqu'un de sage, etc. Personne n'a de pouvoir sur personne. Jésus par exemple dit, moi je suis un exemple pour vous, mais je ne vous sauve pas. Pourquoi ? Parce que vous êtes sauvés, parce qu'il n'y a rien à sauver. Et c'est ça le pardon, le vrai pardon. Donc, cette leçon 161, par exemple, parce qu'il y en a d'autres bien sûr, « Donne-moi ta bénédiction, saint enfant de Dieu », prend un sens. C'est comme un viatique de chaque instant. C'est comme quelque chose qui m'appelle à l'intérieur. Et à chaque fois, je peux avoir une pensée où je me trouve face à quelqu'un ou une situation, donne-moi ta bénédiction, saint enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu es en fait l'amour même, tu es la lumière du monde, tu es l'expression du divin. On dit, oui, mais il y a un extraterrestre qui veut envahir la planète. Non, non. Oui, c'est possible, mais ça, c'est une croyance. Et moi, je choisis. Je choisis la vérité. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela se trouve la paix de Dieu. Et Dieu, comme disait tout à l'heure Avi, Dieu est tout ce qui est, il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est imaginer, inventer. Et c'est ça la non-dualité. C'est pour ça que tous ceux qui font référence à la non-dualité, que ce soit le Tao, que ce soit la Bhagavad Gita, que ce soit Courant Mira, ce que vous voulez, quelque part, nous nous rejoignons tous au-delà des mots dans cette notion non-duelle, cette notion d'amour infini. Et donc, s'il me vient des informations par rapport à des extraterrestres, par exemple, eh bien, je vais immédiatement me focaliser sur l'amour. Et je vais immédiatement dans mon cœur dire, donne-moi ta bénédiction, saint enfant de Dieu, parce que peut-être que tu as des technologies extraordinaires, peut-être que tu veux, que tu as des intentions pas très claires, mais c'est parce que tu as peur, ou tu t'imagines avoir peur. Mais moi, je sais qui tu es. Et donc, je te dis namasté. Je te dis, je sais qui tu es, et j'ai confiance. Et je te dis, donne-moi ta bénédiction, saint enfant de Dieu, parce que tu es le Christ, toi l'extraterrestre, ou toi le violeur ici sur cette planète, ou celui qui cherche à avoir du pouvoir sur les autres et à servir les autres dans l'apparence. Je te dis, donne-moi ta bénédiction, saint enfant de Dieu, parce que je fais crédit uniquement à qui tu es. Or, tu n'es qu'amour, et donc tu ne sais que bénir. Parce que l'amour se donne lui-même, dont tout être est amour. Donc, l'âme profonde de tout être est entièrement amoureuse. Et quand je dis, donne-moi ta bénédiction, saint enfant de Dieu, je vais le dire à tout être, qu'il soit terrestre, intraterrestre ou extraterrestre. Et c'est ça vraiment la non-dualité. Et c'est ça le pardon qui est encore assez peu compris. Vous pouvez remarquer ça dans les groupes. Mais il est temps maintenant de le regarder en face, de voir que ce n'est pas facile souvent dans des expériences très pratiques, très concrètes, dans notre vie quotidienne, humaine. Mais nous nous donnons la main les uns les autres avec cet objectif commun et nous savons où nous allons maintenant vers ce pardon véritable. Et à ce moment-là, nos relations sont des relations saintes. Ce sont des relations amoureuses. Et elles ont un pouvoir de guérison énorme, gigantesque. C'est comme ça que ce monde est transcendé totalement. Et c'est comme ça que ce monde va aller vers cette planète va aller vers une harmonie, mais ça va être le résultat d'une harmonie qui est reconnue à l'intérieur de chacun d'entre nous, et surtout à l'intérieur de tous les êtres universels, cosmiques, terrestres, intraterrestres, extraterrestres. Et il n'y a aucune exception.
Moi, je voudrais continuer avec le pardon véritable en citant un petit passage de La Voie de la Maîtrise de Jaïm, qui est un enseignement de Yeshua qui a été reçu par Jaïm, un Américain qui vit en partie à Bali et qui donne des enseignements sur le pardon véritable, entre autres. Et en préambule, je dirais, il y a des choses qui semblent faciles à pardonner et des choses qui semblent difficiles à pardonner. Pour nous, humains, apparemment, il y a des degrés, il y a des niveaux. Si on me traite d'idiot, bon, si je suis un peu conscient de qui je suis et de ma valeur, ça va un peu ricocher. Je vais peut-être penser, bon, cher frère, tu as le droit de penser ça de moi. Ça va peut-être pas aller très loin. Je peux le pardonner presque en temps réel, peut-être. Et au moment où j'écoutais La Voix de la Maîtrise sous forme d'enregistrement audio, c'est quand je revenais de Bali, et chaque petit déjeuner était baigné dans les enseignements de Yeshua par audio. Et il y en a un qui m'a plus particulièrement marqué, c'est: que se passe-t-il quand un voleur fait intrusion chez moi et repart avec ma chaîne stéréo? Que se passe-t-il? Comment je peux comprendre ça et pardonner ça? Je dis, ah oui, ça c'est un bon exemple. S'il repartait avec Manchester Hero, comment je pourrais l'aimer encore? Et la réponse m'intéressait vraiment. Hein. Bon, maintenant, je le vois peut-être encore un petit peu différemment, puisque je peux encore plus me détacher du matériel qu'il y a 3 ans. Mais ça m'a semblé suffisamment intéressant pour que je le traduise. C'est en anglais pour l'instant. Et ça donne ceci. Quand je pardonne le voleur qui est parti avec ma chaîne stéréo, je décrète le contraire de ce que j'ai appris. Que rien d'une quelconque valeur ne peut m'être retiré. Que le jugement est l'opposé de ce que je veux. Et me fera ressentir à l'opposé de ce que je veux ressentir. Je décrète mon pouvoir de percevoir différemment, et ainsi je me guéris. Voilà un exemple de la vie quotidienne, où appliquer le véritable pardon, c'est décréter de voir la situation autrement. De voir que le jugement que je profère contre ce frère, qui pense devoir manquer de quelque chose au point de venir chez moi retirer un objet et le prendre avec lui. Ce frère, est-ce que je le juge et à ce moment-là je rentre dans quelque chose qui m'empoisonne? Parce que le jugement... c'est une façon intérieure de me contracter, de me dire cela n'aurait pas dû être. Pour être heureux, il n'aurait pas dû venir, il n'aurait pas dû forcer ma porte, il n'aurait pas dû repartir avec ma chaîne. Et en faisant ça, je décrète que je quitte ma paix. Et lorsque j'ai oublié un peu l'événement, un jour plus tard, je me le remémore et je rentre dans le jugement et je me réinstille une petite dose de séparation et de poison. Et pour des cas particuliers, pour des cas que moi je considère graves, ça peut durer des années, ça peut durer toute la vie. La rancune peut être un poison que je m'instille à petite dose chaque jour, un petit peu, même si l'événement n'est plus là depuis très longtemps, et que cela, l'autre n'est plus en face de moi, et il n'y a plus d'interaction avec l'autre, mais moi je perpétue. Aujourd'hui je suis dans la rancune, demain j'ai un peu oublié et hop, je me dis, ah non, encore une petite dose de rancune, ça s'oublie pas. Et je me remets dans l'état de séparation. Donc je fabrique de la séparation chaque jour, à chaque jugement, à chaque rancune renouvelée. Et donc Yeshua nous dit dans ce paragraphe que je me rappelle de ce que je veux vraiment. Hein. Quand ma chaîne Sero est partie avec le voleur, que je me rappelle de ce que je veux. Hein. Et moi, ce que je veux, c'est le bonheur. Comme la leçon que j'ai tirée, 161, la volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Il n'y a pas d'opposé à ce bonheur. Et mon état, c'est le parfait bonheur. Hein. Sauf que le jugement est de nature à me couper de ça et à me proposer une autre voie, une autre perception que celle de ma nature véritable qui est l'amour et le bonheur. Donc, il s'agit plutôt de se rappeler des apparents désastres, des apparentes souffrances qui m'arrivent. Il s'agit de me rappeler de ce que je veux et de qui je suis, et de qui l'autre est aussi. Hein. Ce voleur, s'il n'était pas connecté à la sensation de manquer, ne serait pas venu chez moi voler quelque chose. Et manquer de quoi, même si c'est apparemment manquer de bien. Une certaine avidité parle toujours du vide. Hein. Avidité, ça contient le mot vide. Hein. C'est parce que je me sens vide que j'ai envie de remplir avec des biens matériels. mais vide de quoi ? Vide d'amour. Hein. Et en fait, voler quelque chose, c'est manifester le manque de connexion à ma source d'amour. Si je me sens rempli d'amour, quel besoin j'ai de voler quoi que ce soit ? Aucun. Quel besoin j'ai de juger qui que ce soit ? Aucun. Donc, toutes les maladies sont des maladies d'amour, tous les jugements sont des jugements d'amour, et tous les voleurs essayent de retrouver l'amour par des gestes inappropriés et maladroits, issus de l'ego, mais qui ont quand même pour source la sensation de manquer d'amour. Donc, je peux me guérir, et je peux guérir la situation, et je peux guérir aussi ce frère, puisque nous ne sommes pas séparés, en rétablissant la vérité de la situation. Hein, la vérité, c'est que l'autre ne manque de rien, et que moi je ne manque de rien, et que avec ou sans chaîne stéréo, je suis par nature heureux, et que je peux décider, décréter, que je suis dans le bonheur parfait, ou je peux croire à des choses différentes. Mais le pouvoir de la guérison réside en moi, réside dans ma façon de voir l'événement. Voilà, et quand j'entends un frère qui agit maladroitement en volant ou en jugeant, je peux, au lieu de entrer dans le tourbillon du jugement à nouveau ou de la condamnation, je peux entendre l'appel à l'amour. Je crois qu'il y a un appel à l'amour qui sonne là, qui est sous-jacent en dessous de ces actes. Que je me rappelle que l'ego réclame l'amour maladroitement. Ça, c'est une phrase qui m'est venue à l'instant même. L'ego réclame l'amour, mais ne sait pas ce que c'est que l'amour. Donc, il s'agite pour dire « aime-moi », il fait des choses qui semblent agressives, qui semblent être le contraire d'actes d'amour. Et donc c'est un enseignement de Yeshua qui m'a beaucoup aidé, parce que c'était un endroit où je me dis, là je me sentirais vraiment agressé. Là je sentirais mon intimité violée. Je n'avais que des réponses d'ego, hein, à cette situation hypothétique. Comment je peux rester en paix avec quelqu'un qui vient me cambrioler? Ça, c'est vraiment du quotidien, c'est vraiment du vécu. Et voilà, que je ne pense pas qu'à un moment donné, on peut me retirer quelque chose, parce que ma nature réelle est inviolable, est inchangeable et invulnérable. Mais si je transpose ma nature réelle dans des biens matériels, et bien là, je crois au manque, je crois qu'il peut m'arriver des choses, et je crois au malheur aussi. Et puis, j'ai devant moi le très beau livre « L'Évangile selon Jésus ». Et puis, j'ai été attiré par ce passage très beau qui parle des enseignants du nouveau paradigme. Alors, le nouveau paradigme, c'est l'ère, la nouvelle ère qui s'ouvre à nous. Maintenant, le nouveau monde, comme on l'appelle, on peut l'appeler la cinquième dimension, le monde d'amour, le nouveau paradigme, ou comme on veut. Il y a les enseignants de l'ancien monde qui ont plus le pouvoir et comme fondement, et la persuasion et le fait de sauver les gens et de convaincre qui que ce soit. Et il y a les enseignants du nouveau paradigme. Alors, il commence cette intervention, enfin moi j'ai sélectionné ça, par la phrase « Quand l'amour est présent, les ténèbres s'illuminent ». Donc déjà c'est très puissant cette phrase, hein, « Quand l'amour est présent, les ténèbres s'illuminent ». J'ai toujours considéré les ténèbres comme étant une absence de lumière. et non pas quelque chose à part entière, quelque chose qui a une existence propre. C'est l'amour qui existe et c'est la peur qui est l'absence d'amour. C'est la lumière qui existe et c'est l'obscurité qui est l'absence. C'est-à-dire, c'est quelque part où, en moi, la croyance en l'amour s'est obscurcie. Alors, les nouveaux enseignants, hein, les enseignants du nouveau paradigme, là je lis, ils ne nient pas le côté obscur ou ne partent pas en guerre contre lui. Ils savent qu'il n'y a rien de mal, qu'il n'existe pas de mal auquel s'opposer, aucune bataille à livrer. Ils encouragent juste gentiment la lumière. Ils savent que la lumière elle-même guérira, toutes les blessures. Les enseignants du nouveau paradigme ne tentent pas de guérir les autres. Ils encouragent les autres à se guérir par le biais de l'acceptation de soi et de l'amour de soi. Ils sont un modèle d'amour inconditionnel, en écoutant avec compassion, sans juger, ni tenter d'arranger quoi que ce soit. En parlant de lumière, je vais éclairer un petit peu la situation. Les maîtres de l'ancien paradigme veulent guérir les autres et sauver le monde. Les maîtres du nouveau paradigme Le maître du nouveau paradigme sait que les autres sont bien comme ils sont et que le monde n'est que le reflet de leurs croyances. Celle qui professe le nouveau paradigme a-t-elle fermé les yeux? Ne voit-elle pas la souffrance dans le monde, les catastrophes environnementales, la violence endémique? Bien sûr qu'elle voit les difficultés et les souffrances, mais elle en donne une autre interprétation. Elle ne croit pas que les gens soient coupables ou que le monde soit condamné. Elle entend l'immense appel à l'amour, le cri universel en faveur de l'acceptation et de la compréhension. Et c'est cela qu'elle donne. Donne-t-elle de la nourriture et des médicaments lorsqu'il y en a besoin? Évidemment, mais elle se rappelle à qui elle les donne. Elle se souvient de l'appel et y répond. Elle sait que la nourriture aide, mais elle n'est pas la solution au problème. Cela ne répond pas à la demande. Ce qui y répond, c'est l'amour. Dès que vous voyez un problème qui a besoin d'être arrangé, vous avez privé la personne devant vous de tout pouvoir. Ne faites pas cela. N'acceptez pas la posture de l'impuissance. Il n'y a pas de victime dans ce monde. Si vous voyez un mendiant, ne vous faites pas avoir. Demandez-lui plutôt, pourquoi mendiez-vous à ce coin de rue, ô être puissant? Bravo Yeshua là, puissant. Faites-lui comprendre que vous voyez qui il est vraiment. Regardez-le droit dans les yeux et voyez sa divinité en même temps que vous voyez la vôtre. Les mendiants, pour moi, sont des êtres puissants sur le chemin de l'éveil. Vraiment, hein. Parce que nous pouvons détourner les yeux, parce que c'est tellement, ça nous renvoie à notre propre misère, parce que nous pouvons donner avec mépris, avec jugement. Donc il y a tout un microcosme avec le mendiant de réaction, parce qu'ils peuvent éveiller la compassion et l'amour, parce qu'ils peuvent éveiller la générosité, la vraie générosité, où il y a tout un éventail. Et celui qui est en fait assis au coin de la rue est un être puissant qui me demande, et maintenant, est-ce que tu vas choisir l'amour avec moi? C'est un maître. Hein, tous les mendiants, pour moi, sont des maîtres. parce qu'ils ont choisi de me procurer des situations pour que je me réveille à ma véritable nature. L'impuissance, voyez-vous, est un grand déguisement. Regardez derrière le voile. Ne donnez pas d'argent aux mendiants sans vous arrêter, sans reconnaître qu'il existe. Si vous désirez donner de l'argent, faites, mais ne poursuivez pas votre chemin sans prendre acte de sa présence, car ce n'est pas d'argent dont il a besoin, mais de votre amour. Que vous le reconnaissiez. Vous n'êtes pas là pour arranger sa vie, mais pour l'honorer. Le maître spirituel du nouveau paradigme est satisfait d'être un frère, une sœur, un ami ou une amie. Il a rencontré le maître intérieur et met toute autorité extérieure de côté. C'est pourquoi il ne vient pas à vous en vous proposant de l'aide ou en demandant de l'aide. Il vient à vous en tant que partenaire égal. Il vous traite comme il aimerait être traité et traite la personne à côté de vous de la même façon. Il n'y a pas de hiérarchie, pas de préférence. Il ne vous demande pas de le suivre. Il n'échange pas son savoir contre des faveurs sexuelles. Il ne vous juge pas, ne vous isole pas, n'invalide pas votre expérience. Il demeure constamment un frère ou une sœur à égalité. Et c'est dans cette égalité que sont semées les graines de la rédemption. Voilà un passage que je trouve très, très enseignant. Hein, très enseignant. Justement, il parle d'enseignant. Ça, c'est en relation pour moi directement avec une leçon du cours qu'on cite beaucoup dans ces réunions et qui dit « Vous n'avez rien besoin de faire ». C'est une seule phrase, mais une phrase puissante. Hein. Je peux faire ci ou faire ça, mais j'ai pas besoin de le faire. Si j'ai besoin, ça sort d'un endroit qui est en manque. Hein. Ça manquerait si je ne le faisais pas. Mais je peux être inspiré à le faire. Je peux avoir envie de le faire. Je peux être en joie de le faire. Hein. Ou je peux aussi ne pas sentir de le faire, ne pas sentir ça juste, mais que je sois dans l'envie, dans l'inspiration, ou dans la joie de le faire, ou dans ne pas le sentir, je reste en paix. Hein, c'est ça qui est la constante dans mon comportement. Je n'agis pas à partir d'un état de manque, d'un état d'agitation, d'un état de réactivité. Si, écoute-moi, j'ai un message important, mais tu vas voir, ça va t'aider. Voilà, écoute-moi, je t'en prie. Comment ça, tu veux pas m'écouter? Écoute-moi! Et là, je parle plus de l'autre, je parle de mon manque intérieur. Hein. Si l'autre m'écoute, je suis reconnu et là, je me sens exister. Et si l'autre m'écoute pas, je me sens nul et je me sens vide, hein, parce que j'ai oublié qui j'étais et j'ai placé toute ma demande d'amour à l'extérieur, chez l'autre. Voilà, c'est deux petits extraits qui sont très porteurs, qui sont des cutis de rappel pour moi sur le véritable pardon qui en substance dit simplement que je n'oublie pas qui tu es, cher frère, toi qui sembles m'avoir fait du mal, toi qui sembles m'avoir agressé, que je n'oublie pas ta nature profonde et en même temps elle reflète la mienne et ensemble nous pouvons rire de la situation dans laquelle temporairement nous avons oublié notre nature. Hein, et dans ce rire-là, tout est guéri, tout est pardonné, parce que c'est depuis notre vraie nature que nous éclatons de rire à l'idée qu'il aurait pu nous arriver quelque chose à ce moment, entre guillemets, tragique là de notre expérience.
Tout à l'heure, tu as pris l'exemple du voleur qui vole la chaîne stéréo. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Quel est le côté voleur en moi quand je vois un voleur? C'est la peur. J'ai peur de manquer. Donc je me dis, j'ai besoin d'argent, par exemple, je vais trouver un job. Nous faisons tous cela. Et nous sommes encore peu nombreux à nous dire, mais quelle est ma vraie motivation? Est-ce que je cherche un job pour prendre de l'argent, pour posséder de l'argent? Ou est-ce que je cherche un job dans l'amour, comme toute chose? Et l'amour, c'est qu'est-ce que je peux te donner? Parce que l'amour est infiniment plein. L'amour, il donne tout à tout instant. Comme dit le cours en miracle, pour tout avoir, donne tout à tous. Donc l'amour donne tout et l'amour en même temps reçoit tout. Parce que quand je donne tout, j'ouvre mes bras et je dis je m'ouvre complètement. Et là je suis vulnérable, donc je peux tout recevoir. Je ne ferme rien. Au début, ces notions que je suis en train de dire, c'est un peu difficile, mais finalement c'est très 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 simple, très logique. Et donc quand je considère qu'on m'a volé quelque chose, j'oublie que c'est moi qui ai créé mon expérience. Donc c'est un cadeau. Et puis j'ai cette notion de vol. Pourquoi est-ce que je dis qu'il m'a volé ma chaîne stéréo? Parce que je pense la posséder, je pense avoir un droit. Et sans ma chaîne stéréo, je suis pas bien. Donc je suis en train de m'aliéner à ma chaîne stéréo. Et je me limite et je me crée un enfer. Je suis dépendant de ma chaîne stéréo, de mon argent, de mon compte en banque, de mes relations amoureuses, soi-disant amoureuses. C'est pas des relations amoureuses, c'est des relations de marchandage. Mais le monde de l'ego appelle ça des relations amoureuses. Et ça change tout. Donc quand je vois un vol, quelle est la partie en moi qui voit la réalité du vol? Je vois, j'ai créé une expérience, ma chaîne stéréo a disparu, quelqu'un l'a prise. C'est mon frère d'amour qui joue un rôle parfait pour moi. C'est moi qui ai créé ça. Moi en tant que Christ, en tant que créateur total de mon expérience. Il est fondamental que nous prenions la pleine responsabilité de notre expérience. Comme dit le cours en miracle, tout ce qu'est l'ego, c'est la croyance que quelque chose peut arriver au fils de Dieu que nous sommes, sans sa volonté. Donc tout ce qui m'arrive vient de moi, de la volonté profonde de mon âme. Et ça, c'est valable pour tout. C'est relativement facile, c'est déjà pas facile de l'admettre pour des adultes, c'est beaucoup plus difficile de l'admettre pour des enfants. Mais un enfant, c'est un être qui temporairement vit un processus d'incarnation humaine, dont son âme a choisi son expérience. Et quand un enfant, une petite fille, un petit garçon est violé ou a un accident, son âme a choisi l'expérience. Il ne peut en être autrement. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que ce qui est. Il n'y a que la plénitude de l'être. Et donc chaque facette apparente qui semble nous montrer des différences, des êtres multiples à l'infini, en particulier 7 milliards sur cette planète, en réalité c'est la même chose. En réalité c'est l'expression de la vie. Et l'âme, elle est toujours joyeuse. Elle a envie de faire des expériences. Elle s'amuse à goûter la séparation pour faire une expérience imaginée. C'est ce que nous faisons ici. Et le défi que nous avons ici, c'est de nous réveiller dans ce monde extrêmement duel, de nous réveiller, et la seule façon de se réveiller, c'est par l'amour. Alors que tout nous appelle justement à nous protéger, à créer de la propriété privée, avec les droits sur ma voiture, sur mon compte en banque, sur mon job, avec des droits et des devoirs, avec des prud'hommes, avec des douanes, des frontières, des églises qui disent si tu signes avec moi, tu vas pouvoir avoir le paradis, il me faut donner un peu d'argent, etc. La police, l'armée, les cours de justice également, tout ça c'est fait à partir de la peur. Je sais que ce que je suis en train de dire là peut paraître un peu fort pour beaucoup d'entre nous, mais pourtant c'est ça. Parce que c'est l'un ou l'autre. Ou c'est tout est Dieu, Dieu est tout ce qui est, ou les séparations existent. C'est l'un ou l'autre. C'est pas à moitié. Une femme n'est pas à moitié enceinte. Elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte. C'est tout. Donc, ou tout est un, ou tout n'est pas un. C'est pas un peu un peu pas un. C'est comme si on veut jongler avec des boules de pétanque et des plumes. La légèreté de l'amour, c'est les plumes. Tout ça, ça va tout seul, ça va dans le vent, ça va et vient, c'est parfait. L'amour, c'est le papillon qu'on cherche à attraper et on arrête de l'attraper parce qu'on peut jamais l'attraper. Et à ce moment-là, il vient se poser sur notre épaule. Tout ça, c'est des images, c'est des concepts, des métaphores, d'accord. Mais enfin, c'est quand même réel. Et maintenant, il est temps de regarder en face la réalité. Est-ce que Dieu est vraiment tout ce qui est? Donc, cette propriété privée, qu'est-ce que c'est? Et quand je cherche un job, puisque j'ai pris cet exemple, je commence à comprendre que ce qui importe, c'est pas... Je cherche un job parce qu'il me faut mon SMIC, il me faut mon... Je sais pas comment on appelle ça maintenant, mais enfin, il me faut mon minimum, pour 1500, 2000 euros par mois ou plus. Très bien. C'est pas ça. Si je pars comme ça, maintenant, ça va plus marcher. C'est... Je suis créateur, j'ai choisi une expérience humaine. D'accord, apparemment, je suis dans un petit cadre. Mais qu'est-ce que je peux apporter? Quels sont les talents que j'ai? Je ne les connais pas, mais je vais demander à l'esprit une guidance. Et j'ai envie de me lever le matin joyeux et d'aller travailler, d'aller être en interaction avec mes frères et sœurs dans la joie et de donner, d'apporter quelque chose. Il y aura une contribution financière, quelle qu'elle soit. Je peux avoir un héritage, n'importe quoi. Ça, l'esprit s'en charge. Mais ce qui est important, c'est mon intention de don et non pas mon intention de prendre. Parce que je constate que, effectivement, dans le passé, j'ai eu beaucoup l'intention de prendre. Et ça, c'est volé. Et on nous dit que c'est très bien d'aller créer des sociétés, par exemple, qui vont essayer de créer des besoins chez les gens pour faire de l'argent. Alors, on nous dit que les banques, même, c'est un système qui est institué pour imaginer de l'argent, finalement récupérer les intérêts et toujours... voler. Et ce vol, c'est pas un vol. La notion de vol, c'est un jugement. Quand on observe l'ego et son fonctionnement, il n'y a pas de jugement, il y a observation. On voit la peur, on voit le besoin de prendre, on voit le besoin de se sécuriser, d'attraper. C'est tout. C'est une vision fausse par rapport à qui nous sommes. Tout à l'heure, Avi nous parlait de du mendiant. Effectivement, je le vois riche. Maintenant, est-ce que je sens appelé à lui donner de l'argent ou pas? Ça, c'est une guidance sur le moment. Donc, la forme que je vais donner à mon action, elle dépend de mon intuition ou de ma guidance dans l'instant. Il n'y a jamais de règle. Quand on dit, par exemple, mais qu'est-ce qu'il faut dire à un enfant par rapport au sexe ou par rapport à ce qu'on veut? Il n'y a pas de règle. Parce qu'a priori, nous sommes dans un monde absurde ici. Un monde où la dualité... essaye sans cesse de prouver qu'elle est réelle, c'est-à-dire que la séparation existe, qu'on est menacé, qu'on est en danger, qu'il faut se protéger, qu'il faut faire de nouvelles lois. Regardons par exemple, à chaque fois qu'il y a une élection, et puis il y a des députés, qu'est-ce qu'ils font? Des lois. Et puis s'ils ne font pas de lois, ils vont être virés. Donc ils sont obligés de faire des lois. Alors on fait des lois et ça devient absolument dantesque, où c'est infini, et les lois ne sont même plus appliquées, et puis c'est un système qui s'étouffe lui-même complètement. Ça, c'est l'ego. C'est fait exprès, d'ailleurs. Il faut qu'il tombe. Pour la joie de tous, hein. Pas du tout pour punir quiconque. Il n'y a personne à punir dans l'affaire. Et la seule personne concernée, c'est moi. La seule chose là où je peux agir, c'est dans ma vision intérieure, c'est dans mon choix. Qu'est-ce que je choisis? Pas qu'est-ce que les autres choisissent. Parce que quand je choisis la réalité de qui nous sommes, je choisis pour tout le monde. Je choisis pour tous mes frères et sœurs. Je choisis pour tous les extraterrestres, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs intentions. Pourquoi? Parce que je choisis la réalité de qui nous sommes. Et donc dans cette vision nouvelle de qui nous sommes, dans ce choix de cette unité absolue, de cette plénitude que nous sommes, ben, tout le monde est là. Et il n'y a plus de voleurs à ce moment-là. Il y a apparemment effectivement des rôles de voleurs, des rôles de violeurs, tout ce qu'on veut. Mais ça n'est qu'une apparence. C'est une... manifestation d'un état de conscience. C'est une manifestation de croyance, d'un mesmérisme universel, de ce qui se passe sur cette planète. Or, j'ai accepté de venir ici avec joie, de plonger là dans cette mare au canard, là ici, où il y a effectivement énormément de dualité, il y a beaucoup de haine, il y a des guerres, etc., mais je le savais. Alors, il est temps de me réjouir, de dire, mais je suis venu faire un travail formidable. Et où se fait le travail? En moi, mais pas à l'extérieur. Mais pas à l'extérieur, mais tu me parles d'aller faire, d'avoir un travail, oui, d'avoir un job, oui, d'accord. mais je vais aller à mon job ou mon travail avec quelle attitude, quel état d'esprit? C'est là que ça se passe. Et si je n'ai pas de travail, quelle est mon attitude? Si je suis mère de famille au foyer, quelle est mon attitude? Si je suis retraité, quelle est mon attitude? Si je suis étudiant, si je ne gagne pas d'argent, quelle est mon attitude? C'est à chaque fois un choix dans l'instant. Et les jeunes générations actuellement, on s'aperçoit qu'ils viennent avec effectivement davantage d'ouverture à ça. Et on voit que, je ne parle pas de tous, mais un certain nombre, de plus en plus, sont très ouverts à ce dont je suis en train de parler maintenant. Et je dis bien dans des âges extrêmement jeunes. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge parce que l'âme est là. Et l'âme n'a pas d'âge. Donc tout est une question d'intention et de choix dans l'instant. C'est jamais l'extérieur. C'est moi, à cause de qui je suis. C'est ce que Jésus ou Yeshua appelle le Fils. Il n'y a qu'un Fils. C'était pas compris il y a 2000 ans, en disant je suis le Fils de Dieu, alors on croit qu'il y est. Et l'autre, ben oui, mais c'est pareil. C'est pour ça que Dieu n'a qu'un Fils. Et que dans ce monde duel, ce qui me sauve, ce sont mes relations avec mes frères et sœurs. Ce sont à ce moment-là des relations qui vont devenir totalement amoureuses. En reconnaissant qui tu es, c'est namasté, c'est je te salue, je salue le divin que tu es. J'ai en face de moi le Fils, le Christ. Il y a 2000 ans, d'ailleurs, Jésus faisait très attention, il était très attentif à son entourage. Et chaque être qu'il rencontrait, chaque homme ou chaque femme, était pour lui un enseignant. Qui était là? Le Fils, l'expression de la source, la lumière du monde. Et quand il disait à ses disciples, vous êtes la lumière du monde, il le disait à tous. Il savait très bien que la plupart ne comprenaient pas vraiment ce qu'il disait. Mais il se voyait jouer son rôle, c'est tout, comme nous, maintenant. Et donc, nous ne nous préoccupons pas de savoir si ce que nous disons est compris ou pas compris. Nous nous préoccupons de le vivre, d'être le message. Et c'est ça les messagers de Dieu. Comme dit Jésus dans un courant miracle, les messagers de Dieu par rapport aux messagers du monde, c'est les mêmes, ils portent des messages, mais ils sont différents en ce sens que le messager dans le monde apporte un message, il ne connaît pas le message, il le donne, c'est tout. Mais le messager de Dieu, il est le message. Et quand il donne le message, c'est parce qu'il est le message, il est la lumière, il est l'exemple. Donc il est le vivant, il est celui qui montre le chemin. Il ne fait pas le pas pour l'autre, l'autre doit... peut le suivre s'il a envie. C'est ça le message, le messager de Dieu. Et nous sommes des messagers. Comment? En étant dans l'amour. En ayant des relations amoureuses à tout instant avec tout le monde. Sans aucune exception. Et c'est valable pour toutes les situations de notre vie. À tout instant. Qu'on soit sur son lit de mort, qu'on soit où qu'on veut, où que vous voulez, c'est la même chose. Je choisis l'amour. Je ne m'occupe pas de savoir ce que les autres choisissent. Encore une fois, parce que quand je choisis l'amour, je choisis qui sont les autres. Et à ce moment-là, les autres, ben, sont l'amour. C'est ce que je disais tout à l'heure avec « Donne-moi ta bénédiction, saint enfant de Dieu ». Tu sais faire que ça puisque tu n'es qu'amour, donc tu ne sais que bénir. Qu'est-ce que c'est que bénir? Bénir, c'est donner à l'autre qui il est. Donc, ce jeu amoureux que nous avons choisi de jouer ensemble, en prenant le risque de se haïr ou de croire qu'on se hait, qui est une illusion formidable, en réalité, on s'aime tous de manière infinie, d'une manière incroyable. C'est pour ça d'ailleurs que, là, en 2013, en ce début d'année, là, dans ce temps nouveau, parce qu'il y a eu vraiment un changement qui s'est passé, avec le 12 décembre, 21 décembre, avec la fin du calendrier Maya, nous avons de nouvelles énergies qui nous sont arrivées sur cette planète. Et maintenant, ces nouvelles énergies nous aident considérablement à ce que ce dont je suis en train de parler devienne réel. Ou quand nous disons, mais je t'aime, mais c'est incroyable, c'est réel. Là, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus rien. Les tabous étaient inventés. Il n'y a pas de tabou à l'amour, il n'y a pas de limite. Alors on va dire, mais alors c'est n'importe quoi. Mais c'est pas du tout n'importe quoi, justement. Et c'est ça le miracle. C'est une harmonie incroyable. On est tous observateurs à ce moment-là, de plus en plus, d'un flot d'amour, d'une guérison qui se produit partout, de miracles qui arrivent spontanément. Je dis bien spontanément. Parce que les miracles, on ne les provoque pas. Comme dit le courant miracle, une des caractéristiques de ceux qui font des miracles, c'est qu'ils n'en font pas. Ils les laissent se produire. Alors c'est vrai que ça suppose une confiance totale, c'est vrai. Et oui, c'est pour ça que tous nos guides nous disent « ayez confiance, patience, confiance, patience, confiance ». C'est pas pour rien, parce que l'illusion est forte ici. Il semble vraiment y avoir des voleurs, des méchants, des violeurs. Tout ça, c'est imaginé. Tout à l'heure, à visiter l'allégorie avec les t-shirts blancs et les t-shirts noirs, c'est quelque chose que j'aime bien en disant « mais cette bataille entre les bons et les mauvais, les gentils et les méchants », les extraterrestres malveillants, les extraterrestres bienveillants, mais qui va gagner? Les t-shirts noirs et les t-shirts blancs. Mais qui va gagner cette bataille? Mais ça va compter qu'à rire. Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas d'opposant, parce qu'il n'y a que des t-shirts blancs. Il n'y a que des êtres de lumière. Quelle que soit l'apparence. Et l'apparence n'est pas niée. Justement, c'est ça le défi. L'apparence n'est pas niée, mais ça n'est qu'une apparence. Nous sommes ici, autour, chez Avi, autour de cette table. Quelque part, qu'est-ce qui nous relie? L'amour. Et vous qui écoutez cet enregistrement, qu'est-ce qui vous relie à nous? L'amour. Et puis si vous vous laissez, si vous laissez votre cœur s'ouvrir, vous allez voir que votre cœur s'ouvre pour chacun de vos frères et sœurs sur cette planète. Et puis vous ne mettez plus de limites. Puis ça va s'ouvrir pour tous les êtres extraterrestres ou intraterrestres, les anges, les archanges, les êtres du monde visible et invisible. C'est-à-dire le monde de l'esprit et le monde manifesté. Il n'y a que Dieu, il n'y a rien d'autre. C'est vraiment ça. Alors là, on touche vraiment au vrai pardon, qui est tout et un. Le mot expiation dans le cours en miracle, a été la traduction du mot anglais atonement. Mais dans toutes les canalisations, dans beaucoup de canalisations qu'on a maintenant, Jésus, Yeshua, redit, répète que atonement en anglais c'est at one ment en trois parties. C'est supposé être un. Et l'atonement, l'expiation, c'est la vision que tout est un. Et alors pour ceux qui lisent le cours, qui travaillent le cours, évidemment ce mot a été choisi, expiation, bon, c'est un choix. Évidemment, vraiment prendre conscience que ça veut dire que tout est un. Que c'est la vision que tout tient, c'est pas évident au départ. Mais bon, c'est comme ça. Et puis peu à peu, en travaillant, en laissant cette notion nous pénétrer, ça commence à prendre un sens, une réalité concrète dans nos vies. Tout est un. Nous sommes tous la lumière du monde. Dieu est tout ce qui est. Et donc, ces notions de folie, de vol, de faute, de culpabilité, tout ça c'est inventé. Ça semble le réel, ça ne l'est pas. Notre vision change, nous nous réveillons, mais nous savons que nous dormons ici, parce que c'est quand même un rêve. C'est pas réel cette planète, mais elle nous paraît bien réelle. Alors réjouissons-nous, amusons-nous dans le rêve, mais maintenant nous savons que nous rêvons. Et quand on nous dit, et quand nous pensons, amusons-nous dans le rêve, il n'y a qu'une seule façon de vraiment s'amuser. C'est en aimant. C'est en ouvrant notre cœur. En accueillant. Et donc à chaque fois j'ai une question. Par exemple, quel travail je vais trouver? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et bien maintenant c'est qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Quels sont les talents que j'ai? Alors je ne les connais pas, mais je laisse l'esprit me guider. Et donc à ce moment-là, je vais avoir des occupations quotidiennes, peut-être, quelles qu'elles soient, mais j'irai joyeusement à ces occupations. J'irai dans la joie. Et qu'est-ce que je verrai autour de moi? La joie. Et à ce moment-là, nous sommes les uns pour les autres des lunes-soleil, c'est-à-dire que nous reflétons les uns les autres qui nous sommes, la lumière que nous sommes. Et c'est ce vers quoi nous allons. Là, en 2013, en 2014-2015, dans ce futur qui nous attend là, avec ces changements profonds sur cette planète. Nous allons vers une harmonie incroyable. Par l'amour inconditionnel, par le vrai pardon, par l'acceptation du fait que tout est un, et que le mal n'existe pas, et que les ténèbres sont simplement une imagination de l'absence d'amour ou de lumière, c'est tout.
Quand tu parlais là, Sylvain, ce qui me venait, c'était l'expérience de cette semaine dans le métro, où en fait, j'ai vraiment, peut-être pour la première fois, en fait, j'ai envie de dire, appliquer vraiment le cours. Et je regardais les gens, et je me disais, mais en fait, oui, ce qu'ils recherchent tous, c'est l'amour. Et je voyais vraiment que si je regardais quelqu'un... juste avec de la bienveillance, il y avait un big sourire, que si... Enfin, et puis je voyais les gens entre eux, soit dans des relations amoureuses, soit dans de l'amitié, soit dans des relations de famille. Enfin voilà, et je me disais, mais en fait, les gens... enfin voilà, l'être humain cherche ça. Enfin, cherche l'amour, en fait. Voilà. Enfin, voilà, ce qu'on se dit là, vraiment, dans le métro, en plus, hein, ce qui n'est pas évident. Parce que, bon, évidemment, j'ai déjà ressenti dans des stages, etc. Mais c'est bon. Pour moi, là, c'est, enfin, dans le métro, c'était... bon, j'ai déjà eu ça, mais là, je l'avais de manière plus ancrée. La vie m'a donné l'expérience de me rappeler qui je suis de manière extrêmement forte. Elle m'a donné aussi l'expérience de pas me rappeler de qui je suis, donc d'être dans les ténèbres à un moment donné parce que j'étais coupée de la foi et de la lumière. Enfin, après de me rappeler de qui je suis, je me suis plus rappelée de qui je suis. Enfin, vraiment dans des extrêmes. Donc, j'ai vraiment vécu le rappel de la lumière et les ténèbres. Vraiment tout à l'heure, Avi ou Sylvain, vous parliez des ténèbres, c'est ne pas se rappeler qu'on est la lumière. Enfin, vraiment, mais profondément, je l'ai vécu. Et c'est vrai que le chemin que j'ai aujourd'hui, moi, c'est vraiment d'être en fait un messager de ça aujourd'hui. Mais je trouve que c'est subtil, en fait, parce que c'est difficile de se rappeler de qui on est, tout en s'en rappelant pas, puisqu'on est quand même, moi je suis incarnée, donc je me rappelle tous les jours que je suis incarnée, parce que la vie me rappelle tous les jours que je suis incarnée. Et donc je suis dans la dualité et je trouve que c'est subtil. Je trouve que c'est subtil. C'est intéressant, mais c'est subtil. Et j'ai une expérience bientôt qui va venir parce que j'ai un procès dans 3 semaines où on me demande de l'argent. Évidemment, j'ai pas cet argent. Et là où je trouve ça intéressant, c'est qu'en fait, j'y vais curieusement sans peur complètement, ça serait faux, mais une peur quand même relative par rapport à ce que ça aurait pu être. Parce que, en fait, je sens que mon âme, enfin, je sens que là, dans ce, a fait profondément l'expérience, enfin, je le ressens que mon âme fait profondément l'expérience de ça. Et ça, je trouve, c'est. Enfin, je suis vraiment contente. Il y a presque de la joie, en fait, curieusement. Parce que je me rappelle, enfin, mon âme se rappelle qu'elle a fait cette expérience-là. Mais, enfin, vraiment, je le ressens. Je le ressens. Et donc, c'est un bon défi pour moi. Parce qu'il va falloir quand même que je travaille au niveau de la dualité à essayer de de faire ce que je peux quand même pour pas me retrouver SDF, parce que même si les SDF sont un maître, je n'ai pas spécialement envie non plus de me retrouver dans la panade. Et en même temps, mon âme, enfin voilà, je trouve que ce jeu-là, il est quand même subtil, parce que effectivement ici, comment dire, moi j'ai des va-et-vient comme ça, de moins en moins fort, et donc je suis contente parce que c'est que je commence à rentrer dans un chemin du milieu. Mais voilà, enfin, quand je vous entends et que vous dites c'est l'un ou l'autre, oui, c'est l'un ou l'autre. Effectivement, c'est l'un ou l'autre. Et vraiment profondément dans ma vie, moi, dans des petites choses, je le ressens tout le temps. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Et comme je alors, soit parce que je suis. Ben, bon, bref, pour l'instant, ce que je vis, c'est l'un ou l'autre. Et je me balade, quoi. Je me balade, voilà.
Tu décris effectivement ce que tout le monde vit ici. C'est même le but de cette expérience où, quand il nous est dit le ciel et la terre passeront, ça veut dire du coup en miracle qu'ils cesseront d'exister en tant qu'état séparé. Ça suppose que temporairement, dans un temps illusoire, ils semblent séparés. On est tous en ajustement de trajectoire tout le temps. On oscille entre une vision de la non-dualité et une vision de la dualité. La tentation est très grande ici. La tentation est très forte. Même nos guides, les êtres de lumière, nous parlent d'une autre dimension en disant pour nous, c'est beaucoup plus facile que pour vous. Et c'est pour ça qu'ils ont, j'en parle souvent, mais ils ont beaucoup d'admiration pour nous, pour ce travail qu'on a choisi de faire. C'est pas pour dire qu'on est plus que les autres. On peut dire que c'est une admiration du travail qui se passe. C'est la conscience qui se réveille à elle-même, et ça émerveille tout le monde. Ça émerveille les êtres d'autres dimensions, et ça commence à nous émerveiller, nous qui nous réveillons à ça. C'est extraordinaire ce qui se passe ici. Donc comme tu viens de dire, on oscille entre une vision non-duelle et une vision duelle, mais c'est déjà pas mal. Parce que pour la plupart, pendant longtemps, c'était que la vision duelle. C'était la survie. C'était, il faut se battre, il faut acquérir des propriétés, acquérir des relations, essayer de laisser une trace. Alors, on est content, on dit c'est merveilleux, il a des rues, avenue Félix Faure, etc. On n'a pas de rue Charlemagne ou de rue Vercingétorix, mais pourquoi pas. Et puis, où sont-ils les Charlemagne, etc. Ben, ça a disparu. Donc, on voit qu'il n'y a pas de permanence. Mais on a cru à cette permanence et on a été en survie, à se battre, à surnager pour s'en sortir. Et il y a eu tout de même évidemment énormément d'amour qui a été manifesté, mais au milieu d'un état de conscience très bas. C'est pour ça qu'on nous dit qu'actuellement nous venons de recevoir des nouvelles énergies, mais c'est important ça. Des énergies qui n'ont jamais été sur cette planète. Et que ça faisait partie d'un plan qui était initié depuis l'origine des temps, de l'imagination du temps. Tout ça en symbiose avec des alignements planétaires, soleil central, etc. Tout ça, c'est incroyable. Ça a trait justement à une expérience humaine, une expérience incarnée, une expérience de matière, dans un univers physique de matière. Et on est là, on est 7 milliards ici. Alors on peut discuter sur la spiritualité, savoir si ça nous parle, ça nous parle pas. En attendant, on est 7 milliards avec la même expérience. Elle est vécue d'une manière différente et unique pour chacun d'entre nous, c'est vrai. Mais en attendant, on a tous un corps physique, on n'a pas de corps, on n'est pas, et puis on est là sur Terre. Et quand on dit on est là, on dit mais qui est là? Ah ça, c'est autre chose, on ne sait pas. Mais en attendant, il y a expérience commune, on peut dire. C'est une façon de parler. Donc ce que tu viens de décrire, Estelle, effectivement, on le connaît tous. C'est ça la beauté, c'est ça le défi formidable, et on est en perpétuel réajustement. Le courant miracle dit, par exemple, vous ne pouvez pas être engagé de temps en temps. You cannot be committed sometimes. C'est l'un ou l'autre, c'est tout le temps, et pourtant il n'y a pas de temps. Donc quelque part, c'est un état de conscience permanent. Quelque part, ça suppose qu'on est tout le temps en réajustement. On est tout le temps en train de quitter, ah oui, là, c'est mon ego est là, mais puis peu à peu, ça n'a plus d'impact. Et donc, on sait très bien ce que c'est que d'avoir peur. On sait très bien ce que c'est que d'être victime. Seulement, effectivement, comme tu viens de le dire d'ailleurs, tu dis, c'est drôle, j'ai ce procès qui arrive, mais c'est plus comme avant. Bon, d'accord, j'ai quand même un peu peur, il faut quand même que je me défende parce que je risque d'être victime, déjà. Bon. Et puis, au fond, non, il y a quelque chose, il y a une sagesse qui est là, il y a une paix qui est déjà. Et ça fait partie des nouvelles énergies, et c'est, disons, dans un processus extrêmement complexe dans lequel nous sommes tous impliqués, qui est ce réveil cosmique planétaire là, maintenant, où quelque part nous nous attendons les uns les autres. C'est une façon de parler, ça veut dire, nous nous réveillons ensemble. Et ce qui est important, c'est notre état de conscience dans l'instant présent, mais pas les résultats. C'est notre état amoureux dans l'instant. Et nous savons tous très bien ce que c'est que ce que tu viens de décrire. En disant, ben voilà, j'ai ce procès, j'ai ceci, cela, et puis je oscille entre deux états et c'est pas facile. Ça paraît pas facile. Mais il n'y a rien à faire puisque tu es là dans l'instant. Nous sommes là dans l'instant. Donc on commence à comprendre qu'effectivement, ce n'est pas une question de faire, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas qu'est-ce qu'il faut dire dans telle ou telle circonstance, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire. J'en sais rien ce qu'il faut faire. Chaque situation est différente. La question c'est, est-ce que je choisis l'amour ou la peur? Est-ce que je choisis l'amour? L'amour c'est, j'ai confiance, je commence à vivre le fait, expérimenter le fait que tout est pris en charge, que nous sommes des êtres extrêmement puissants, que tout est pris en charge par qui je suis, par qui nous sommes, bien sûr, pas par un Dieu extérieur. Simplement, justement, comme tout est pris en charge par qui nous sommes, et qui nous sommes, c'est un esprit d'amour, et que rien va contre nous, y compris nos croyances. Donc c'est là qu'on s'aperçoit, on voit qu'il y a un paradoxe formidable avec ce jeu duel qu'on a choisi d'imaginer, d'inventer, de jouer, et en même temps un réveil dans ce jeu duel. Parce qu'en apparence, comme on est infiniment puissant, on pourrait dire, mais puisqu'on a créé ce jeu duel, cette imagination d'être séparé, donc d'être victime, d'être en difficulté, d'être en conflit, etc. Mais comme on est infiniment puissant, ben il n'y a pas de limite, on va être internellement là-dedans, et puis... Mais non. Parce que c'est imaginé. C'est totalement imaginé et en fait, ça n'a jamais existé. Et c'est là qu'on commence à comprendre que cette certitude, cette vision, en fait, est une révélation. C'est pour ça qu'on nous parle de révélation. On ne peut pas commander ça. Mais cette révélation, elle vient beaucoup plus facilement maintenant avec les nouvelles énergies. C'était déjà prévu au départ. Donc c'est gigantesque ce dont je suis en train de parler là, mais c'est vraiment ça qui se passe. C'est pour ça que ce phénomène de fin de calendrier maya, là, de fin du monde, là, de 21 décembre 2012, qui est simplement une marque comme une bande kilométrique sur un temps linéaire illusoire d'ailleurs, eh bien, ça a un sens très profond. Parce que même si c'est imaginé, eh bien, le rêve, c'est pas n'importe quoi. Donc il y a des énergies. Et le rêve, c'est un univers qui, multidimensionnel, avec un temps apparent, qui d'ailleurs est différent selon les points de vue, les points d'observation, selon les mondes, et en même temps, finalement, il n'y a pas de temps. Donc même des mondes multidimensionnels très éthérés, on va dire très élevés, c'est encore une illusion. Alors, c'est pas pour avoir raison que je dis ça, c'est parce que ça peut nous aider vraiment à lâcher prise et être davantage serein là dans notre expérience terrestre. C'est pour ça que cette information qui nous vient, elle a un but, c'est pour nous aider à la paix, c'est pour contribuer à lâcher, à accueillir, c'est-à-dire être dans l'amour, parce que aimer et accueillir, c'est la même chose. Encore une fois, et nous sommes le 13 janvier 2013, et les choses changent maintenant très vite. Nous avons les uns les autres l'expérience, je dirais même de semaine en semaine, et même de jour en jour. Moi, en tout cas, je le vis, et je ne suis pas le seul, parce que j'ai des gens autour de moi qui m'en parlent. Je suis stupéfait de voir qu'effectivement, il s'est passé quelque chose de très important sur cette planète, et qu'on va en prendre conscience les uns les autres, progressivement. D'ailleurs, c'est dit aussi par tous nos guides là, qui nous donnent des messages à ce sujet. Pour la plupart de nos frères et sœurs, c'est encore pas compris, pas vu. Mais pour certains d'entre nous, ça commence à être sérieusement vu. Et c'est extrêmement joyeux et magnifique. C'est incroyable ce qui se passe. C'est vraiment un réveil global et général. Ce réveil implique tout le monde. C'est un réveil amoureux. C'est un réveil qui implique, qui englobe tout le monde. Parce que l'amour, c'est ça. Donc il n'y a pas l'un qui est plus que l'autre. Il y a une reconnaissance mutuelle de qui nous sommes. Dans des relations amoureuses. Alors c'est ce terme qui revient sans cesse, c'est vrai, j'adore le vivre, j'adore en parler, le partager, il n'y en a pas d'autre. Mais quelque part, ça me plaît bien, ça. C'est cette notion de relation amoureuse. Il y a aussi une notion que je vis beaucoup et que je partage souvent avec des gens que je rencontre ou avec lesquels je suis en interaction. C'est l'impact que nous avons lorsque nous échangeons, soit avec un individu, soit en groupe comme ici, à propos de justement d'une nouvelle vision, d'une vision amoureuse, d'une ouverture de cœur. Et par exemple, hier, j'étais avec une personne pendant plusieurs heures. Et tout d'un coup, elle m'a dit, mais je suis en train de prendre conscience que notre interaction, là, dans ce café, parce que j'étais dans un café, je suis en train de prendre conscience que notre interaction sert à tout le monde sur cette planète et même ailleurs. J'ai dit, c'est exactement ça. Et c'est la première fois que quelqu'un m'en parle comme ça. Et c'est quelque chose qui est général. C'est pour ça que j'ai dit souvent que ce groupe-là, par exemple chez Avi ici, ça, c'est extrêmement puissant. Parce qu'en fait, nous sommes reliés les uns aux autres. Nous avons choisi un rêve de séparation. Mais dans ce rêve, l'ego, disons, il y a... C'est pas l'ego. Dans ce rêve, il y a un plan énergétique avec des énergies que nous recevons et des énergies qui nous relient les uns aux autres. Parce que nous sommes amusés à nous imaginer séparés, en fait, c'est impossible. Donc, il y a un paradoxe entre deux volontés divines, on peut dire, mais il faut bien comprendre quand j'emploie le mot divin, c'est le choix de s'amuser avec notre essence divine à se croire séparés, donc d'imaginer la séparation, et c'est très puissamment fait, mais c'est impossible. Donc, parallèlement à ce choix, il y a le plan divin, qui arrange toutes les circonstances pour nous ramener et nous réveiller. Et ça, c'était depuis l'origine des temps. C'est-à-dire que tout le plan était déjà fait depuis le départ, depuis la pensée de séparation. C'est-à-dire que, on peut dire, mais c'est une façon de parler dans un temps, puisqu'il n'y a pas de temps, mais qu'à l'instant de la séparation, tout est fini. C'est impossible. Et donc, le jeu duel qui va sembler durer des milliards d'années est là, dans un une fraction de seconde. Et ça n'a pas existé. Bien sûr, ce sont des mots qui ne vont pas ensemble parce que on parle de temps. Or, le temps n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit qu'on fait un voyage sans distance, un voyage illusoire, mais qu'on a besoin de faire. Et donc, on s'aperçoit que ce n'est pas un voyage dans le temps, c'est un voyage, c'est une série d'expériences. Avec le temps qui est utilisé pour donner l'illusion que nos pensées n'ont pas d'effet. Et que nous ne sommes pas créateurs de notre expérience. Parce que sans ça, si on pense qu'on est créateur de notre expérience, on ne peut pas avoir cette expérience de séparation. Et on dit, mais non, c'est pas possible. Alors, donc, il fallait inventer un système incroyable. Effectivement, c'est drôle. Et il fallait inventer un système incroyable. Et les deux éléments pour inventer ce système, c'est fantastique, c'est l'imagination du corps physique. Donc, le petit véhicule dans lequel on rentre, on s'imagine être ça. C'est remarquablement fait dans les énergies, c'est incroyablement comment c'est fait, c'est fascinant. Un corps humain, c'est incroyable. Le corps physique, et puis le deuxième élément qui était nécessaire, c'est le temps, l'imagination du temps, qui nous donne l'illusion que nos pensées n'ont pas d'effet, c'est-à-dire que nous ne sommes pas créateurs de notre expérience. Mais quand on commence à démonter le système, on va dire quand le système se démonte de lui-même, parce que c'est ce qui est en train de se passer, mais c'est un énorme éclat de rire, c'est une bonne blague. Une bonne blague, c'est tout. Parce qu'il n'y a jamais de séparation, c'est pas possible. Donc c'est on s'imagine être victime, mais non, c'est tout imaginé. Alors on va dire, oui, mais attends, bien gentil, mais enfin, toi, tu vois peut-être ça comme ça, mais enfin, la plupart sur la planète ne voient pas ça comme ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas vrai. C'est vrai et c'est pas vrai. Et c'est là qu'on libère tout le monde. C'est vrai en apparence. On semble dormir, mais personne ne dort ici. Personne. On semble dormir, c'est tout. C'est une blague. Mais quand même, mais puisqu'on... Oui, on semble, c'est pas nier. On semble dormir. On s'amuse à ça. Mais comment on s'amuse à ça, mais ça paraît réel, et puis on se tape dessus, et vous croyez que c'est drôle, que c'est une imagination, avoir des bombes qui tombent, avoir des violeurs et tout ça. Oui, c'est imaginé. Personne n'a envie de souffrir. Seulement, on s'aperçoit que ce jeu de la séparation, qui est simplement inévitable, on peut dire, dans l'infini des possibles, l'infini des possibles au sens de pensée, cette pensée de séparation, elle n'est pas contrée, ça va engendrer cela. Mais c'est tout, c'est imaginé. Et donc, c'est libéré instantanément, tout de suite. C'est pour ça que le courant miracle nous dit, combien il en faut pour sauver le monde? Combien il en faut pour un seul suffit? Et dans le courant miracle, dans les premiers chapitres du texte, Jésus apparaît comme très, par moment, comme très fort. Il apparaît en ayant un rôle planétaire. Il dit, je suis en charge de l'expiation, ce que j'avais traduit par réparation. Je suis en charge du réveil à qui nous sommes. Je suis en charge du réveil à la vision que tout est un, là sur cette planète. Très bien, ok. Mais je suis en charge de la vision que tout est un. Bah, tout est un, tout est un. Donc à ce moment-là même, le rôle de Jésus va disparaître. Ça n'était qu'un rôle temporaire. Comme tous les rôles, bien sûr. Quel qu'il soit. Et on se retrouve devant le mystère incroyable de ce qui existe, qui est éternel, qui est cette possibilité de faire des expériences à l'infini. Cette notion dont on parlait au début de ce groupe, cette notion de la divinité qui restera toujours un mystère incroyablement merveilleux. Ce qui existe, ce qui est éternel, ce qui est là, ce qui est réel, qui est le divin, qui est l'esprit créateur, que nous sommes. Mais comme c'est illimité et infini, on ne peut jamais le saisir. Ça se révèle à soi-même tout le temps. Et soi-même, c'est avec un S majuscule, évidemment. Cela se révèle, cela est. Alors on dit oui, d'accord, mais ça peut paraître théorique, ça, par rapport à notre quotidien, à ce qu'on a à faire. Il faut que j'aille faire mes courses. Je suis encore en découvert à la banque. Oui, mais c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, parce que j'ai choisi cette petite expérience humaine-là. Et justement, dans ce petit microcosme, quand je choisis l'amour, je n'ai pas de limite. Et ça concerne l'univers entier. C'est ça, c'est pour ça qu'on nous parle d'une petite planète bleue qui a un rôle moteur, un rôle très important dans cette galaxie. C'est ce réveil-là au milieu de cette dualité qui est fantastique. Et c'est très concret. Ce que je suis en train de dire, ça peut nous paraître très éloigné de notre quotidien. Pas du tout, je répète bien. Parce que je suis en train de parler de quoi ? D'ouverture de cœur, c'est tout. Quand ? Ben maintenant. Parce que c'est toujours maintenant. Donc ce qui nous paraît compliqué, long, etc., c'est inventé parce qu'il n'y a pas de temps. Et on ne vit que le présent. Donc c'est toujours maintenant. Donc c'est toujours maintenant qu'il y a quelque chose que je vais appeler moi qui peut choisir. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre, qui choisit l'amour ou la peur. Là, ah oui, mon compte en banque est à découvert, qu'est-ce que je fais ? Ah bon, je respire, ou je sais pas, et puis j'ai pas de règles. Et puis j'ai mes enfants, qu'est-ce que je vais dire à celui-là ou celle-là ? Je ne sais pas, j'ai confiance. Donc tout le temps, je m'aperçois que je suis appelé à la confiance, confiance, confiance à tout instant. Silence. Je suis appelé à quoi ? À être féminin, c'est-à-dire à accueillir les dons de Dieu, à accueillir qui je suis, à accueillir justement l'expiation, la vision que tout est un. Et avec cette vision-là, mon action devient créatrice, elle devient guérissante, elle devient lumineuse, elle devient amoureuse.
Moi, je voudrais partager ma petite expérience, ce qui me fait pour ma part. Ça peut peut-être aider, mais c'est valable pour moi, mais c'est peut-être pas valable pour tout le monde. Mais je pense que ça me fait du bien. Des petits exemples, comme tu viens de dire, une seule personne peut sauver le monde. Ce genre d'expression, moi je précise pour moi-même, pour ne pas me laisser bercer à chaque fois par des petits mots où j'analyse pour profondément, où je médite pour comprendre ce que ça veut dire. C'est parce que tout est un et que nous sommes tous un. Mais en même temps, je n'oublie pas, en tant qu'être incarné, que nous devons nous réunir. Moi je suis là ce soir parce que samedi prochain, je n'aurai pas l'occasion d'assister à la réunion où j'assiste régulièrement. Et j'ai eu l'idée, comme je n'étais pas très loin, de dire que ça serait bien de venir ici ce soir pour partager ces moments qui, effectivement, a une grande utilité pour l'humanité. Donc, un suffit, ok, mais en même temps, le même Jésus qui dit, quand vous êtes deux, je suis présent. En même temps, il nous encourage de nous réunir. Il y en a beaucoup parlé ces derniers temps qu'il fallait qu'on se réunisse pour l'élévation, etc., etc. Donc, pour ma part, j'essaie de comprendre plus profondément sans me laisser aller. Et ça m'aide, moi, personnellement. Par exemple, le mot Dieu. Moi, chrétienne de bas âge, de mes parents, catéchistes, etc., moi, j'ai trouvé un moyen pour... J'ai dit, qui est Dieu ? Moi, ce qui m'aide pour ce mot Dieu, à chaque fois, je le définis pour ne pas attendre un Dieu personnifié quelque part qui vient m'aider. Alors, moi, j'ai trouvé la solution. Dieu, c'est cette énergie de vie qui est en moi. Alors, quand on dit que c'est moi qui crée, en même temps, c'était déjà dit. Moi, je choisis, par exemple, à partir de maintenant, j'écris ce qui me fait du bien. Je n'ai pas envie de dire que oui, c'était déjà fait, c'était déjà créé, c'était déjà OK. Alors, j'essaie de faire plus attention et je prends conscience de ce qui ne va pas, de ce qui ne me plaît pas dans la vie, dans ma vie. Sans me culpabiliser, j'accepte. Je ne dis pas que c'était fait ainsi. Et que ça devait... J'en ai longtemps dit, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? J'analysais toujours les origines des continents, etc., etc. Et je n'ai jamais eu de belles réponses. Maintenant, j'accepte. Mais, ok, il en est ainsi. Maintenant, je choisis de récréer ce qui me fait du bien. Alors, un beau cadeau que je me suis fait maintenant, c'est que Je ne dis pas que c'est très facile, mais ça m'aide. Je n'essaye plus de trop me compliquer la vie. Quand un problème se présente, je dis, ben, j'ai choisi de me faire du bien, j'ai choisi la paix. Entre la paix et la guerre, l'amour et la peur, je choisis quoi? J'essaie de dire même comme une affirmation, j'ai choisi l'amour. Ce qui est sûr, c'est que ça m'aide moi-même intérieurement. Mais je ne dis plus, j'essaie de ne pas penser qu'il a été fait ainsi, c'est vrai. Mais je me dis, j'essaie de créer aujourd'hui ce qui me fait du bien. J'essaie de créer aujourd'hui ce qui me fait du bien et sans seulement rester dans ma rêverie ou quelque chose qui me berce naturellement pour dire que oui, ok, c'est comme ça. Et en même temps, quelque part, mon ego me dit, mais oui, mais pourquoi et comment, et etc. Donc, je choisis que je suis responsable de ma vie et qu'à partir de maintenant, j'essaie de créer ce qui me fait du bien et puis de ne pas seulement dire que oui, il n'y a que l'amour, l'amour, mais le mot amour, mais enfin, l'amour, c'est moi qui la pratique aussi. L'amour existe, mais il faut que je pense amour pour que ça soit une réalité pour moi. Et là, je ne me dis plus seulement parce que j'ai appris au catéchisme, je le dis parce que je le sens que c'est une réalité. Et moi, ça m'aide plus profondément. Je ne suis plus dans ce... C'est-à-dire que nous sommes tous un, on est unité, etc. Mais je sais que nous sommes un, et il n'y a pas de bon, pas de mauvais. Mais il y en a qui ont fait du travail, qui ont eu des démarches, et que moi, j'ai de pas à faire aussi pour rentrer à la maison. Rentrer à la maison, c'est quoi encore? C'est une expression que je me disais, qu'est-ce qu'ils disent chaque fois rentrer à la maison? Pour moi, rentrer à la maison, c'est me sentir libre, tout simplement. Il n'y a pas une maison construite quelque part où rentrer chez Dieu, puisque Dieu n'est pas ailleurs. Il est en moi, ou encore que je suis Dieu. C'est mon état d'esprit. Moi, c'est une expérience que je voulais partager et qui m'aide actuellement. Je ne sais pas si ça peut servir, mais voilà, j'ai voulu partager ça.
Merci, Isis. Alors, je sens bien que ce dont nous parlons maintenant, c'est de vibration, c'est de cette présence de l'amour qui est beaucoup plus sensible, comme si c'était palpable, comme si c'était dans l'air, grâce aux nouvelles énergies dont on a parlé à l'instant, grâce à l'accélération. Quand les choses s'accélèrent et quand les vibrations s'accélèrent, elles deviennent beaucoup plus perceptibles. Et j'ai aussi une expérience personnelle à partager qui était un peu déconcertante pour moi. Il y a quelque temps, dans les groupes, je disais « Je sens que le monde est une machine à laver en position essorage. » Et ça parlait de nettoyage. C'est-à-dire que dans l'essorage, voilà, ça va à toute vitesse et ça expulse tout ce qui n'a pas lieu d'être grâce à l'accélération. Et il s'avère que il y a des pensées qui me viennent et je peux dire avec assurance que ce ne sont pas des pensées de mon ego. Tout simplement parce que mon ego résiste à ses pensées. Donc l'ego ne génère pas des pensées auxquelles il résiste lui-même. L'ego génère des pensées qui sont dans son mode de pensée et de fonctionnement et qui sont dans le domaine de la séparation. Alors ces pensées, elles me disent... Elle me ramène des circonstances de mon passé dans lesquelles j'étais moins conscient. Ou des circonstances qui peuvent être relativement récentes et d'autres assez anciennes, mais elles ont toutes comme point commun, avis répare, nettoie. C'est-à-dire, tu as été inconscient là, résultat, les circonstances de mon divorce, parce que je me suis senti vraiment victime et que je réclamais justice, j'ai été amené à faire des choses, à organiser des choses qui ont été reçues comme violentes hein, par mon ex-épouse. J'ai fait faire des constats d'huissier avec réveil à 6 heures du matin, commissaire, serrurier, la totale. J'ai été dans la haine. Même si j'ai, après cette violence et après cette haine ont été un tremplin formidable pour aimer, mais radical, je dirais, mais qui m'ont été très utiles. En même temps, il y a un endroit où j'ai été complaisant avec la violence qui a été générée, avec la souffrance qui a été générée. Comme je me sentais victime, j'étais dans l'inconscience, c'est-à-dire j'ai attribué à l'autre tous les torts, et je me suis dit, moi, je demande justice, et c'est moi qui ai raison. Alors, ce que je vois en cette période, c'est la complaisance ne marche plus. Avec l'accélération de ce qui se passe dans ce que je ressens comme étant les énergies actuelles, ça ne fonctionne plus de laisser des choses inconscientes dans mon passé qui ne sont pas corrigées, dans lesquelles je ne reviens pas guérir, pardonner la situation. Ça devient inconfortable et je dirais ça devient insupportable. Et ça réclame, mais avec puissance, et j'ai au moins 3 et d'autres arrivent régulièrement comme des bulles d'inconscience qui remontent à la surface de ma conscience. En même temps, je trouve ça magnifique parce que c'est de l'auto-nettoyage. Et je disais, ça vient pas de mon ego parce que mon ego, il réagit en disant, oui d'accord, mais pas tout de suite, laisse-moi tranquille. Je suis occupé, tu vois pas que j'ai plein de choses à faire. Voilà, fous-moi la paix. C'est passé, on n'en parle plus. Ça va s'oublier, ça va se réparer tout seul. Et je suis très content de pouvoir observer l'ego comme un petit mode de pensée qui tourne en rond tout seul, mais que je ne suis pas. Je suis content d'avoir la distance et de pas me dire c'est moi qui pense ça, mais c'est mon ego qui déblatère, qui perd la tête. Donc, il y a des circonstances anciennes, je me dis, mais Avi, tu vas pas laisser ça comme ça tout le temps, toute ta vie. C'est maintenant. Il y a des circonstances un peu plus récentes dans lesquelles je me suis senti dans un pouvoir et j'ai été inconscient à exercer un certain pouvoir sur des personnes. Et ça a été aussi générateur de violence. Et que ça puisse remonter à ma conscience, je ne sais pas comment, c'est pas des choses qui m'arrivaient, hein, c'est pas des choses qui me sont déjà arrivées. Il y a l'événement que j'ai relaté sur mon divorce, ça date d'il y a au moins 15 ans, et pendant 15 ans, la complaisance a fonctionné. C'est-à-dire, j'ai été content d'avoir trouvé un levier pour aimer, mais j'ai pas trouvé le courage de demander pardon. Demander pardon, c'est pas me rabaisser et dire j'ai fauté, parce que ça serait ignorer qui je suis, et maintenant c'est plus possible. C'est simplement remettre de la conscience sur la situation en disant ben, je reconnais qui tu es, hein, et je reconnais le rôle qu'on a joué. Et je m'excuse pour la violence, c'était ce que je pouvais faire à ce moment-là, c'était l'état de conscience, aujourd'hui j'en ai un autre, qui me permet de revenir vers toi et de guérir la situation. C'est-à-dire de mettre l'amour là où il a manqué, au moment où ça s'est passé. C'est comme si l'amour réclamait d'être remis partout avant de... c'est comme si c'était quelque chose qui s'aplanissait. Il y a des petites bosses de temps en temps, il y a des creux d'inconscience, et on me dit remplis, mets de l'amour. Mets de l'amour ici, mets de l'amour là. Fais ce que tu as à faire, Avi. Fais ce que tu as à faire. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Aimer. Et aimer, ça ne veut pas dire maintenant et demain et après-demain. Ça veut dire toutes mes expériences de vie doivent, pas doivent, mais sont le reflet de l'amour. Je suis responsable de toutes mes expériences de vie. Peut-être que c'est ça, la fin du karma. Peut-être qu'on parle beaucoup de la fin du karma. Ce sont des déséquilibres, certes illusoires, certes passagers, mais ce sont des moments où l'amour a manqué. Tout ça, bien sûr, répond à un plan parfait, hein, d'évolution. Mais le plan parfait, pour moi, il inclut que ça m'a mené à l'amour, mais ça doit être aussi issu de l'amour. Et c'est la partie inconsciente qui n'est pas issue de l'amour que maintenant je vais corriger. Hein. Je vais corriger comme il n'y a aucune raison de laisser des actes non issus de l'amour, non réinterprétés par l'amour. Parce que maintenant c'est possible pour moi. Maintenant c'est plus, je suis plus à genoux comme une carpette en demandant s'il te plaît, accorde-moi ta grâce. Non, je dis, voilà, c'était pas fait avec amour. Maintenant, je peux regarder ça avec amour et puis te remercier pour le rôle que tu as joué dans mon évolution et te demander pardon humblement pour la violence hein, qui a été générée. Et ça fait pas de moi quelqu'un d'inférieur. Hein. Mais il y a l'humilité et surtout si j'accepte d'être complaisant plus longtemps il me semble que ça va devenir totalement insupportable. Donc il y a une invitation à un changement intérieur profond que je ressens pour moi maintenant à aplanir tout ce qui a été expérimenté comme non issu de l'amour, avant de passer à autre chose. C'est ça mon sentiment. C'est une préparation à un état d'esprit uniquement basé sur l'amour. Et c'est dans cette lumière-là que ces points du passé m'apparaissent. C'est parce qu'il y a cette lumière-là, peut-être ces énergies nouvelles, peut-être cette nouvelle conscience, peut-être ce nouveau paradigme, c'est dans ce nouveau paradigme que tout d'un coup la complaisance qui est un état d'inconscience ne peut plus être supportée pour moi, ne peut plus être soutenue. C'est pas supporté dans le sens je la soutiens, ça ne me ressemble plus hein. C'est incompatible avec qui je sens que je suis, que je deviens. Ce que je deviens ne peut pas accepter en son sein la complaisance. La complaisance, c'est je sais qu'il n'y a pas eu d'amour et je fais rien. Gandhi disait, si vous êtes conscient au courant d'un problème et que vous ne faites rien, vous faites partie du problème. Et donc là, je sens que j'ai des problèmes et j'ai des solutions qui n'attendent qu'à être appliquées, c'est-à-dire... nous sommes un, et la seule loi universelle, c'est la loi d'amour, et qu'elle a à être appliquée partout, tout le temps, y compris dans mon rétroviseur, hein, dans mes actions passées, parce que maintenant, c'est possible, parce que maintenant, ça le réclame également.
Merci Yavi pour ce témoignage et ça résonne en moi avec l'expérience que je suis en train de vivre. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé en moi. C'est la séparation avec ma femme qui a eu lieu il y a un an. Et il y a deux personnes en moi. Il y a la personne qui dit « ne pardonne pas tout de suite, ça viendra, etc. » Et puis l'autre qui ressent en fait que l'amour existe toujours entre nous deux, et je le ressens profondément chez elle, bien que je ne la vois pas, mais je le sais. Et en fait, les choses pourraient être tout simplement apaisées, c'est-à-dire accepter que nos vies soient, que nos chemins deviennent parallèles, éloignés, mais que tout simplement, l'amour est là, ce qui nous a unis, les enfants, tout ça, ça pourrait être tout simplement là et faire chaud au cœur. Eh bien, voilà, ces derniers temps, ça revient régulièrement, c'est-à-dire, quand je dis, c'est bizarre, je ne ressens pas d'amour, et puis tout d'un coup, je pense à ma femme. Donc là, il y a vraiment quelque chose à dépasser. Il y a vraiment quelque chose à dépasser, parce que si j'assèche mon cœur, tout simplement parce que je ne peux pas ressentir l'amour pour ma femme, à cause que je ne peux pas pardonner, eh ben il faut que je fasse le pas cette fois-ci, et c'est clair, quoi. Il y a rien à dire, quoi. C'est en gestation, et pourquoi pas maintenant, tout simplement.
Tu viens de dire pourquoi pas maintenant, tout simplement. Et c'est toujours maintenant, et c'est un choix maintenant. C'est-à-dire le cœur, c'est une intention. Donc j'aimais l'intention, mais je l'aimais vraiment. Et c'est maintenant. Et nous qui t'écoutons, qui viens d'écouter ton témoignage, je me suis vu voir ta situation dans la lumière, dans sa réalité, qui n'est que lumière. L'amour, effectivement, entre celle que tu appelles ta femme, et puis toi, et tes enfants, il a toujours été là, il n'y a eu que ça d'ailleurs de réel, rien d'autre. Bien sûr, ça paraît intellectuel de dire ça, mais c'est vraiment comme ça, pour toutes les situations. Et le fait qu'on soit réunis ensemble, qu'on écoute ton témoignage, et qu'on l'accueille, eh bien ça sert à tout le monde, non seulement à ta situation, ça provoque des guérisons, des retours à une vie amoureuse, vraiment au sens fort du mot. Il y a une vie dans l'amour, une vie dans la joie, l'harmonie, la guérison de choses passées. Et ça sert aussi à d'autres. C'est en ce sens que je dis que ces groupes sont extrêmement puissants. Et donc, merci pour ton témoignage, merci pour ton partage. Ça touche notre cœur, aux uns et aux autres. Et encore une fois, c'est toujours maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Et l'amour ne compte pas les secondes. L'amour est éternellement présent maintenant. Donc merci.
Moi, j'appelle toujours cadeau parce que quand je suis libérée, c'est un très beau cadeau pour moi. Moi, quand j'ai compris que pardonner à l'autre, c'est à moi-même que je pardonne, ça, c'est extraordinaire. Et je l'ai compris avec le cœur, pas avec la tête. Pardonner à l'autre, c'est à moi-même que je pardonne. Et ça me libère quand je le dis vraiment, quand je pardonne vraiment par mon cœur, ça me libère et je prends de l'énergie, je sens que je prends de l'énergie. Que ma femme ou mon mari soit avec moi ou pas, est-ce que c'est l'amour charnel ou l'amour vraiment sans condition? Qu'elle soit ailleurs, à 6000 kilomètres, je peux communiquer en esprit. Je lui envoie mon amour. Peut-être que ce n'est pas la femme qui devait vivre avec moi éternellement. Je pense à elle, peut-être que je suis seule, j'ai envie d'avoir quelqu'un à côté de moi. Est-ce que c'est la raison? Ou c'est vraiment parce que le cœur y est. Vous savez, quand on évolue sur le chemin, c'est toujours pas facile. Les choses nous arrivent pour nous permettre d'évoluer, de comprendre certaines situations de la vie. Parfois, ça peut être pas méchant que la femme qui ait un divorce. Le divorce entre les êtres humains, le divorce de cœur, ça n'existe pas. On est toujours un en esprit, comme nous le rappelle, je ne sais pas combien de fois ce soir. La femme, j'ai eu une histoire quand j'allais souvent dans des groupes de prière, où c'est dans les Écritures. Ça se faisait encore dans les traditions africaines. C'est-à-dire que dans une famille, quand un homme meurt et qu'une femme reste, le frère prend la femme qui a perdu son époux. Et ainsi de suite dans la famille. Alors, je résume l'histoire. Et un disciple a demandé, maître, lors de la résurrection, en fait, comme il pensait dans le temps, mais à qui appartiendra la femme? Le maître a dit dans l'expression pour dire que le corps n'existe pas. Lors de la résurrection, il n'y a que l'esprit. Donc, on n'a pas besoin, la femme n'appartient à personne. Donc, autrement dit, si je me libère de cette culpabilité, ou que je ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort, j'accepte si j'ai commis des erreurs. Et j'accepte si moi je qualifie que l'autre a mal agi envers moi. Tout ça, c'est pour permettre mon évolution, comme a dit Yavi. Enfin, j'essaie de comprendre ça aujourd'hui. Avant, je ne comprenais pas, mais c'est un cadeau pour moi que je puisse comprendre aujourd'hui comme ça. Yavi vient de dire tout à l'heure, remercier son ex-époux d'avoir réagi, enfin je le dis avec mes mots, pour permettre son évolution. Alors, aujourd'hui, quand on est sur le chemin de l'évolution, nous tous pouvons dire la même chose. Ce que je ne disais pas il y a 20 ans, par exemple, il y a 15 ans. Donc, ce qui nous arrive, quelle qu'en soit la façon dont c'est passé, l'argent, on l'a perdu, etc., nous sommes plus ou moins responsables de ce qui nous arrive. Que nous acceptons ou pas, moi je pense qu'en acceptant, ça nous libère. Mais si on refuse d'accepter, il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, nous sommes responsables. J'accepte que je suis quelque part responsable, c'est parce que j'ai fait. Mais ça m'arrive pour me permettre de comprendre quelque chose que je ne comprends pas encore. Et que je comprendrai. Quand je comprendrai, je serai libérée de quelque chose et je vais dépasser une étape. Et je me sentirai bien. Et ça, le retour à la maison. Tant que je dis, est-ce que je pardonne? Non, tu pardonnes qui? Est-ce que je me pardonne? C'est déjà pardonné. Puisque je pardonne à ma femme ou je pardonne à mon mari, je sais que c'est à moi-même que je pardonne. Mais où est le problème? Je me libère d'une histoire, je suis tranquille. Nous avons des enfants. Ils resteront éternellement nos enfants. Qu'elle soit où elle est avec notre femme, notre homme, mais nous avons fait des choses ensemble dans la vie, et ça c'est marqué pour la vie, pour notre incarnation éternellement, rien ne changera. Et maintenant, je pardonne, même si je n'ai pas besoin d'aller lui dire forcément, j'ai commis des erreurs, je le pardonne, mais je le dis dans mon cœur, quand je suis libérée, c'est que c'est fait. Et maintenant, si tu sais qu'elle peut, qu'elle peut avoir le temps d'écouter, et que toi, tu as le courage de lui dire, l'occasion de se rencontrer, là, tu en profites pour exprimer en parole. C'est des symboles, les mots. Mais c'est en moi d'abord que je devais libérer cette histoire. Que je le dise avec les mots ou pas, ça ne change pas grand-chose tant que je ne me suis pas déjà libérée moi-même. Il n'y a pas de faire semblant. En fait, dans la réalité, de se libérer, et là, l'histoire va se passer tout seul. Moi, j'ai expérimenté ça, je peux vous dire que c'est vrai. Je me suis dit, mais j'ai fait tant du bien, j'ai fait deux choses, j'ai pris la responsabilité de mes petits frères parce que chez nous, personne ne m'avait obligé de le faire. Dans ma nature, mon père ne vit plus, j'avais tous mes petits frères, à un moment donné, je dis, mais j'ai fait tellement de choses et maintenant, ils ne sont plus reconnaissants. Aujourd'hui, je me dis, bon, comme venait de dire Avi, merci de m'avoir permis de comprendre cette réalité qui me permet d'évoluer et que je peux être capable de dire pardon. Pardon à moi-même d'abord, et je vous pardonne. Là, je me sens forte. je peux même me féliciter d'avoir évolué, d'être capable de dire librement pardon. Et c'est cette erreur qui m'a permis d'évoluer, d'être forte aujourd'hui, d'être capable de dire pardon. Sans ça, je n'aurais pas évolué. Donc, c'est une occasion qui m'a permis aujourd'hui d'évoluer. Aujourd'hui, je donne quand je peux. Quand je peux, je ne donne pas. Parce que je donne ou que je ne donne pas, ça ne change rien. Plus je donne, plus on me réclame. Et quand j'en ai plus, je ne suis plus la bonne personne. Alors, je donne, comme je venais de dire tout à l'heure, quand je le ressens et que c'est possible de donner. Et en même temps, quand je donne à l'autre, je sais que je le donne à moi-même. Et si je ne sens pas que je le donne à moi-même, je ne donne pas. C'est parce que ce n'est pas juste. Parce que j'ai aussi appris que, tout à l'heure, on parlait de donner. J'ai eu quelque chose, j'allais dire la chair de poule, je dis, mais moi, je cherchais toujours à donner. Aujourd'hui, j'ai appris aussi à recevoir. Autrement dit, avant, je me dis, non, tu n'as pas les moyens, non. Non, j'ai appris que si je dis non à la personne, c'est pour l'empêcher d'évoluer matériellement. Il me donne le peu qu'il me donne. Je le reçois, je l'accepte et je l'encourage d'évoluer sur le plan de l'univers, que l'univers lui donne l'avantage parce qu'elle comprend qu'il faut donner. Donc aujourd'hui, donner et recevoir, pour moi, c'est la même chose. Alors qu'avant, je ne savais pas recevoir, je donnais. Maintenant, je donne. Même si on me donne quelque chose de très peu, pour moi, c'est autant de même valeur qu'on m'aurait donné une voiture. Et c'est le cœur qui parle. Et moi, j'avoue que ça me fait remplir d'énergie. Et pour moi, c'est un bonheur. Donc, si ça peut aider, reconnaître que si je pardonne à l'autre, c'est à moi-même que je pardonne. Déjà, je me libère de ce problème. Parce que nul n'est coupable forcément. La culpabilité, il faut apprendre à vraiment oublier. Parce que même si on pardonne, quand quelque part il y a un pincement de cœur qui me culpabilise encore pour quelque chose, d'une façon on est responsable. Ok, je suis responsable, j'accepte. Ça me permet d'évoluer. Mais je ne dois plus me culpabiliser. C'est ok, c'est fait, j'ai commis des erreurs, j'ai fait ce que je pouvais faire en ce moment-là. Et maintenant, je reconnais que, ce que je viens de dire tout à l'heure, je choisis de recréer aujourd'hui ce qui me fait du bien. Je sais que ce que j'ai fait, je ne pourrai plus le faire aujourd'hui. Si je fais, j'aurai les responsabilités. Ça, je dois le savoir. Ce n'est pas gratuit. Si je refais les mêmes erreurs, je ne vais pas reconnaître que je suis bonne parce qu'on est tous un, on est tous... Mais c'est là où je dois faire la distinction. Si j'ai commis une erreur dans le passé, mon petit cœur me dit « j'ai commis une erreur, maintenant... » J'essaie de ne plus récréer ces mêmes choses, j'essaie de récréer ce qui pourrait me faire du bien et du bien pour les autres. Donc, le pardon à l'autre, c'est à moi-même que je pardonne. Et ça, c'est superbe de le comprendre.
Voilà, avant de conclure l'enregistrement de ce groupe, il y a deux choses qui me sont revenues, qui sont très concrètes, que j'ai envie de partager. Ce matin, je visionnais une vidéo qui est la suite de qu'est-ce que la réalité? What the bleep do we know? Hein, c'est quelque chose qui parle beaucoup de physique quantique et qui parle beaucoup. C'est un endroit où il me semble que science et spiritualité se rejoignent. D'ailleurs, il y a des scientifiques interrogés en même temps que des chercheurs. Des maîtres spirituels qui s'expriment. Et la deuxième partie de « Que savons-nous de la réalité ça a comme sous-titre « Aller voir au fond du terrier du lapin »,« Descendre au fond du terrier ». Et il y a deux choses que j'ai bien remarquées et qui me disent que vraiment science et spiritualité se rejoignent et que il me semble qu'on est à un tournant dans l'humanité, dans la séparation entre science et spiritualité. Parce que la science jusqu'à présent s'occupait de phénomènes tangibles, qui sont démontrables, reproductibles. La spiritualité parlait de choses abstraites, non physiques, indémontrables. On n'a jamais pu peser le poids de l'amour hein, sur une balance, pas encore. Alors, dans la première, la première partie parle de d'intrication. Donc ça, c'est un phénomène que on connaît depuis quelques années. Deux particules physiques qui ont été à un moment proches, si elles sont séparées par chacune à l'autre bout de l'univers, séparées par des milliards d'années-lumière, elles sont toujours en corrélation l'une avec l'autre. C'est-à-dire que si on applique un changement à l'une, à 10 milliards d'années-lumière, le changement se répercute instantanément chez l'autre. C'est-à-dire que ce qui voyage, c'est de l'information. Et ça voyage plus vite que la lumière, puisque sinon il faudrait 10 milliards d'années. Donc, l'intrication, ça veut dire que ces deux particules sont comme nées ensemble et restent ensemble tout le temps, quelle que soit la distance qui les sépare. Ça, c'est quelque chose qui était déjà connu dans la science depuis quelques années. On va plus loin maintenant, hein, avec ce qui est dit là-dedans. C'est il y a plusieurs choses. Il y a un physicien qui dit, ou un chercheur, qui dit, mais il y a eu le Big Bang. C'est toute la matière observable de tout l'univers était réunie dans le volume d'une tête d'épingle, tout l'univers entier. Ça veut dire que toutes les particules sont intriquées, toutes les particules de l'univers physique, hein, et que ça a explosé, ça s'est retrouvé aux confins de l'univers. Et la conclusion de ce chercheur, c'est de dire, tenez-vous bien, donc nous ne sommes pas séparés. C'est là où ça se rejoint. Ça veut dire, il dit, forcément, nous sommes tous reliés les uns aux autres, ne serait-ce par nos particules subatomiques, et que nous sommes tous interdépendants, et qu'un changement chez l'un fait un changement chez l'autre. Combien il en faut pour sauver le monde? Un. Parce que tout le reste est intriqué. C'est puissant. Alors, c'est déjà, waouh, c'est déjà une nouvelle en soi. On est tous reliés, et c'est la science qui le dit. Hein, nous sommes un. Ensuite, ça continue. Ça continue de plus belle. Ils ont réussi à démontrer qu'une même particule pouvait être dans 3000 endroits à la fois. La même particule. La multilocation. Et quelqu'un, et l'intervieweur dit, mais si je mets une balance en dessous d'une des 3000 apparitions de cette particule, est-ce que j'ai un 3000ème du poids ou est-ce que j'ai tout le poids? Et il dit, la question est sans fondement. Vous pouvez pas isoler, c'est la même particule. C'est la même chose. Et si vous essayez d'extraire ce 3000ème, tout disparaît. Ça veut dire que ces 3000 représentations dans l'espace de la même chose. Et elles fonctionnent toutes ensemble, ces 3000. Et d'une certaine manière, c'est sous des aspects multiples, il n'y en a qu'une. C'est ça l'humanité. C'est aussi une avancée spirituelle. C'est pas 3000 choses différentes, c'est 3000 représentations d'une seule chose. Et si ils l'ont démontré à 3000, mais c'est vrai pour 7 milliards. Hein. C'est vrai pour tout ce qui est vivant, physiquement. Donc, je sens qu'on est à un point de convergence, que la physique quantique a ouvert des voies vers « nous sommes un » qui deviennent chaque jour plus criantes, chaque jour plus évidentes. Hein, je vais le diffuser, puisqu'il est sur YouTube, je vais le diffuser sur Être Plus. C'est doublé en français, et c'est remarquable. Hein, les interventions sont vraiment très, très pertinentes, hein, pour moi. Voilà, je voulais conclure avec ça, qui est très réjouissant. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'histoire de l'intrication, Le physicien disait, quand il y a deux particules très séparées par beaucoup d'espace, en vérité, l'espace qui les sépare est une illusion. En vérité, elles sont proches et il n'y a pas l'espace qui est soi-disant là, n'est pas là. Ça aussi, c'est une avancée spirituelle pour moi, parce que l'espace est la création de l'ego. Il n'y a pas d'espace. Et donc, dans la vérité, non seulement les particules sont interdépendantes, mais elles ne sont pas séparées par de l'espace. C'est notre création, c'est notre perception. Donc, voilà, on va pouvoir bientôt les inviter dans nos groupes, les physiciens quantiques, s'ils n'y sont pas déjà... Voilà, si ça vous va, je termine l'enregistrement du groupe, qui était un petit peu plus long que d'habitude, mais il n'y avait aucune raison de le court-circuiter avec toutes les belles choses qui ont été exprimées. Ce qui n'empêche pas que nous puissions, après la fin de l'enregistrement, continuer à invoquer les miracles parmi nous, à continuer à partager de cœur à cœur. Voilà, dans la joie d'un prochain partage, apparemment la semaine prochaine, que j'annoncerai, je vous dis, chers frères et sœurs, à tout bientôt.